Nous sommes mercredi 21 novembre 2018 et vous écoutez le Sony Bar.
Bibar !
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
J'ai quelque chose à vous dire.
Non. On va déjà taper sur Sony toute la soirée, donc on, voilà, on n'est pas obligé de...
Je taper sur son VRP.
Tout à fait, tout à fait. Bonsoir, Mecton. Ah, voilà, ça fait plaisir.
Ça pète un peu.
Et bonsoir à tous nos auditeurs. Nous allons donc avoir un programme relativement chargé ce soir, puisqu'on va parler de Sony à l'E3. Nous allons parler faut que je reprenne le conducteur. C'est bien parce que je suis.
Un couple bas. D'Américains condamnés par Nintendo.
À 12 millions de dollars d'amende, et apparemment c'est à l'amiable, donc ça fait quand même plaisir. Les 20 ans d'Ocarina of Time, alors pas que au Japon en fait, parce qu'il est sorti en Europe quelques jours plus tard.
Alors le 11 décembre en Europe de mémoire.
C'est ça.
Mais c'est pile aujourd'hui les 20 ans au Japon.
Exactement, et je crois qu'aux États-Unis c'était le 20. C'est sorti juste une journée avant, il me semble, quelque chose comme ça. Mais c'était toute fin novembre.
Ah aussi. Oui, avec la pub et la musique de Conan.
Avec la pub et la musique de Basil Poledouris, issu du film Conan le Barbare, qui envoyait du gros pâté avec cette fameuse VHS qu'on a tous regardé en boucle 150 fois. Voilà, mais on va commencer tout de suite par des nouvelles de la PlayStation Mini. Une catastrophe industrielle en perspective. Alors, ce que je vous propose de faire... Pour simplifier, c'est de passer la liste des jeux et ensuite de voir pourquoi c'est parti en couille. Et je crois que la liste des jeux devrait suffire. Je tiens quand même à préciser déjà, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que c'est pas un émulateur maison.
Ouais.
C'est PCSX Rearm qui est un émulateur open source.
Scandale.
Alors c'est pas forcément un scandale, pourquoi pas. Mais j'ai le sentiment... Quand tu regardes ça et que tu regardes la liste des jeux, que le truc a été rushé pour arriver à Noël et que les mecs n'ont pas eu le temps de faire un vrai émulateur maison, parce que Sony sait a priori très bien faire ça. C'est quand même très bizarre.
Après, ils ont
avec la PS3. Hein. Ah, mais PCSX Rearm marche mieux sur ARM, j'en ai aucun doute. Hein. Aucun doute là-dessus.
C'est à peu près noble, peut-être pas à ce point-là, mais. C'est bien d'avoir reconnu qu'une solution tierce marchait mieux que la sienne.
Ça veut aussi dire que ça ouvre la porte à pouvoir injecter n'importe quoi dedans, ce qui est quand même une bonne nouvelle.
Ah, c'est pas con.
Parce que voilà, la liste des jeux... Donc, il y a des jeux qui sont communs à toutes les versions. Alors, Battle Arena Toshinden...
J'ai un gros souvenir de ça.
Pourquoi ? Alors vas-y avec ton gros souvenir, parce que moi honnêtement, j'ai le souvenir que c'était une purge.
C'était une purge, mais c'était... Moi, c'est assez représentatif de l'époque PlayStation, c'est-à-dire que le truc était vendu comme une vitrine technique. Donc ouais, c'était nouveau, on n'avait pas l'habitude de voir un rendu graphique comme ça, mais qu'est-ce que c'était naze à jouer !
Mais c'est un truc de ouf, parce que même à l'époque, je me rappelle que les gros Sony fans que je côtoyais de très loin à cette époque-là disaient que c'était de la merde, quoi. Mmh. Donc c'est quand même ouf de pourquoi ce jeu-là est là-dedans. Enfin, c'est vraiment... Ça, c'est un slot perdu, quoi. Quand t'as que 20 slots pour mettre des jeux qui doivent être représentatifs de la PlayStation, parce que je pense pas qu'ils feront une PlayStation Classic 2. Alors peut-être si, l'année prochaine, ils feront peut-être une PlayStation Classic 2 avec une vingtaine d'autres jeux, ce qui serait peut-être pas idiot, hein, après tout. Et puis des sticks analogiques, cette fois-ci.
Ce sera la PlayStation DualShock Mini.
Oui, peut-être. Parce que quand tu regardes sur NES Mini et sur Super NES Mini, alors évidemment, il y a des trucs qui manquent parce qu'il y avait 30 slots dans un cas, 20 slots dans l'autre. 21, pardon, slots dans l'autre. Donc forcément, tu vas faire des déçus parce qu'il n'y aura pas tel jeu ou tel jeu ou tel jeu. Mais sur la sélection de jeux, il y a quand même eu très très peu de ratés. Sur NES Mini, à ma connaissance, il n'y a que Ice Climbers qui est peut-être discutable.
Parce qu'il a vieilli, mais c'est...
Parce que c'est pas un très bon jeu, mais... Enfin, je veux dire, si Ice Climbers avait pas été dans Smash Bros. Melee, qui s'en souviendrait aujourd'hui, tu vois. Donc, voilà, mais et sur Super NES Mini, je suis désolé, il n'y a pas une seule fausse note, quoi.
Oui, après, voilà, le catalogue NES... Enfin, Super NES est tellement grand que forcément, il en manque en fonction des goûts de chacun.
T'aurais pu mettre 10 slots de plus facile.
Ah, putain, il me manque un Chrono Cross, tu vois. Un Chrono Trigger, pardon.
Ouais, il y a Chrono Cross aussi sur PlayStation.
Il y a pas quoi, entre deux, t'as Secret of Mana, t'as Final Fantasy
VI.
Il
y a largement de quoi faire, je suis d'accord.
Il y a à boire et à manger, quoi.
Oui, tout ce qu'ils ont sélectionné, c'est du bon. Ça, il y a pas de souci.
Donc c'est voilà.
Contrairement
c'est quand même...
à.
Contrairement à. Non, alors attends, Final Fantasy VII.
Ça va.
Pas grand chose à dire.
Oui, bah, ça reste un très grand RPG.
C'était normal.
Et très apprécié aussi. Hein.
Mm. Et puis ça reste, de toute façon, vu que le remake est pas loin, est pas là de pointer le bout de son nez, voilà. C'est toujours de l'argent dans la poche de Square Enix, je pense que c'est comme ça que ça a été vu. Mm-hmm. Intelligent Cube.
Je ne connais pas.
Non, je ne connais pas non plus.
C'est un puzzle game où on fait tourner des cubes sur une espèce de plan et à un moment les cubes disparaissent. C'est pas un mauvais jeu, c'est un truc qui était dans une démo avec les premières PlayStation ou la deuxième génération PlayStation.
Ah, alors attends, tes cubes c'est genre des dés de 1 à 6, d'accord.
Non, okay. Ah non, c'est pas celui-là. Non, tu confonds avec un des jeux japonais.
D'accord.
Non, c'est vraiment des cubes que tu fais. En fait, tu fais tourner des cubes de sorte à faire des assemblages, et après tous les cubes s'en vont devant l'écran ou derrière l'écran, ça fait bam 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 bam, mais ils s'en vont tous.
Ok.
Donc c'est un puzzle game qui est peut-être très bien, je sais pas, mais s'il fallait un puzzle game, pourquoi pas. Après tout, sur NES Mini, on avait Dr. Mario. Mm-hmm. Je crois que sur Super NES Mini, il y en avait pas.
Il y avait pas panel de pont sur NES Mini.
Sur la version Jap peut-être, mais je crois pas qu'on avait Tetris Attack sur la version européenne.
Non. Par contre, il y avait probablement Tetris sur NES Mini, non?
Non, il y avait pas Tetris.
Non.
C'est vrai que c'est plus un jeu du Game Boy. Hein.
Puis c'est surtout que c'est pas la meilleure version, la version NES. Et très honnêtement, si tu dois retenir un puzzle game de la NES, je pense qu'il vaut mieux retenir Dr. Mario. C'est Tetris, c'est pas la meilleure version.
Oui, on a le Dr. Mario, il y a le Yoshi, le Mario Yoshi. Là.
Ah, il y a Mario et Yoshi.
Ouais. Il est pas ouais, mauvais quand même celui-là.
C'est pas ouf non plus, mais c'est pas mauvais. Mm. Bon, Jumping Flash.
Ouais, un des premiers platformers 3D. Voilà, dans mon
c'est
souvenir,
un des premiers jeux de la PlayStation, un des premiers platformers 3D. Je peux comprendre, il y a le côté nostalgique. Why not? Metal Gear Solid, c'est de la merde.
C'était normal.
Mais c'est indiscutable.
Alors, du coup.
C'est un jeu Hideo Kojima, hein, pour ceux qui auraient oublié.
Kojima. Bon, on s'en branle. Allez, je spoil un bout du jeu. L'histoire de la fréquence pour appeler Meryl, comment vont-ils faire vu que
dans
le
jeu, ouais,
c'est au dos du jeu.
C'est au dos de la boîte de la PlayStation Mini d'après Gamekult.
D'accord, ok.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah putain, c'est balèze. Bien joué.
Ok, ok.
Bien joué, ça c'est bien joué.
Mm. Ouais, là on peut rien dire.
Mr. Driller, pourquoi ?
Je ne sais même pas ce que c'est.
Moi je connaissais la version GBA, c'est un jeu où tu. C'est un puzzle game aussi, c'est-à-dire un puzzle game où tu vas. Il y a un bon film MGS1, nous dit-on dans le chat. C'est bâtard. En fait, c'est un truc où tu vas creuser avec un marteau-piqueur dans des formes différentes. Et en fait, faut pas te faire écraser la gueule. Alors, c'est rigolo comme jeu, mais. Enfin, pour moi, c'est un slot de perdu, là. Tu vois, c'est dommage. La version GBA était sympa. La version PlayStation, je savais même pas que le jeu, il y avait eu une version PlayStation. Et pour moi, c'est pas un jeu qui est vraiment emblématique de la PlayStation. Je veux dire, tout le monde s'en branle, quoi.
Là, et même dans l'histoire du jeu, rien à foutre, quoi.
Non, donc je comprends pas. Ridge Racer type 4, okay. Pourquoi pas.
Emblématique.
Okay. Emblématique aussi.
Ça compense l'absence d'un jeu de course.
Pourquoi il n'y a pas Gran Turismo ou Gran Turismo 2? Alors Gran Turismo tout court, je dis pas, donc Gran Turismo 2, pour moi c'est un jeu qui tient encore
en
route aujourd'hui. Hein.
En plus, on va parler de Ridge Racer. Ridge Racer,
voilà. Oui, pardon, excusez-moi, il fallait le jingle.
On le rajoutera.
J'en mettrai un en post-prod. Ouais. Donc Ridge Racer, oui, après, s'il fallait remplir les jeux de course, je pense qu'il y avait d'autres candidats un peu intéressants. Donc Gran Turismo, évidemment, je ne sais même pas pourquoi il n'y est pas. Enfin, c'est quand même hallucinant.
Après, faut se le dire, un jeu de course sans stick, c'est quand même relativement chiant. C'est pas ce qu'il y a de plus maniable, on va dire.
Sauf quand le jeu a été calibré pour.
Ouais, mais les Gran Turismo, ils sont sortis après, non?
Je sais pas.
Ah non, il y avait
Gran Turismo 1, je suis pas sûr.
Oui, voilà, c'est après.
Gran Turismo 1, je suis pas sûr.
Je suis en train de repenser à un truc débile. Les manettes, c'est pas des DualShock.
Non, c'est normal.
C'est complètement con.
Ok, ça va niquer un truc avec Psycho Mantis dans MGS1.
Oui, de la vibration. Parce qu'il n'y a pas de vibration et pas de double stick.
Ouais. Dommage.
De toute façon, personne va y jouer à MGS1. Ils vont y jouer environ 10 minutes. Ils vont se dire, ah putain, la version GameCube était quand même vachement mieux.
Ils vont se rendre compte que c'est un Pac-Man avec des flingues.
La version GameCube qui est quand même de la merde. Hein. Je tiens quand même.
Non, c'est la meilleure version.
Elle est très japonaise.
Bah justement, moi il assume jusqu'au bout ses conneries.
Voilà. Bon, donc Resident Evil Director's Cut.
C'était okay. Normal.
C'était normal. Moi j'aurais plutôt vu le 2. Je trouvais ça plus. Enfin, je pense que le 2 a beaucoup mieux vieilli que le 1.
Oui, mais il y a le remake du 2 qui sort dans pas longtemps.
Ouais, mais du coup je trouve ça très con. Parce qu'en fait, refaire le 2 justement dans son état d'origine, ça aurait pu être intéressant. Je vois pourquoi c'est pas le cas, mais je me dis que c'est quand même bizarre. Alors, on a au moins la version Director's Cut, ce qui fait que t'as la cinématique d'intro.
Oh oui.
Enfin voilà, t'as toutes ces conneries là, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais je me dis, le 1, il a tellement vieilli par rapport au remake sur GameCube et par rapport au remake qui est sorti depuis sur PlayStation 4, PlayStation 3, et que c'est pas un jeu qui a un énorme intérêt. Je trouve que le 2 est un bien meilleur jeu. Le 1 pose des bases intéressantes, mais je trouve que le 2 est un bien meilleur jeu. Ça reste un jeu d'aventure, action très au second plan. Mais voilà, je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas.
Pareil, d'un point de vue historique, ça me choque pas plus que ça, qu'ils mettent les pierres angulaires du média.
Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est un jeu représentatif de la PlayStation, j'ai pas de soucis là-dessus. Simplement, si on m'avait donné le choix, j'aurais certainement pas pris le 3, mais j'aurais pas pris le 1, j'aurais plutôt privilégié le 2. C'est tout. Je pense que c'est un meilleur jeu, et voilà. Revelations Persona, alors moi, Persona, je ne pratique pas. Antix, un avis sur le sujet?
C'est un jeu qui est plutôt étonnant, parce que je pense pas que Persona, à l'époque de la PlayStation, soit un jeu qui a énormément marqué les joueurs. Mais en fait, c'est probablement parce que Persona, depuis le 4 et le 5, la série est devenue super populaire, fallait mettre le premier.
Pourquoi pas.
Ça reste a priori un bon titre, alors je n'y ai pas joué. Par contre, ce sera sûrement la version américaine qui a été amputée d'un bon tiers du jeu, si j'ai bien compris. Donc je ne sais pas si c'est très intéressant de mettre cette version-là.
C'est vraiment, ça aurait été amputé d'un tiers du jeu ?
En fait, alors... J'ai lu, Third Edition a fait un petit bouquin sur la série Persona, donc je me suis un peu informé sur les deux premiers jeux de la série, et en fait la version américaine du premier supprime, enfin il y avait deux embranchements de scénario à un moment dans le jeu, et en fait un des embranchements était totalement supprimé de la version américaine.
Ah oui, donc les mecs ont supprimé toute une branche de l'histoire, quoi.
Et alors, en plus, c'est aussi à l'époque où ils ont américanisé Persona. Donc ce qui fait qu'en fait, donc Persona, ça se passe quand même dans le Japon contemporain, avec des habitudes, des noms, et souvent des looks et des environnements très japonais. Ils ont voulu adapter énormément de choses pour le public américain, donc en américaine...
En club d'orotisant.
En club d'orotisant.
Si vous avez vu la version française de Yu-Gi-Oh!, vous savez à quoi vous attendre.
Putain.
C'est aller jusqu'à complètement changer la tête de certains personnages, dont un qui est devenu noir.
Oui, le normal.
Alors qu'à la base, ce sont tous des japonais. Hein. Bon, voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée de cette version américaine qui date quand même d'une époque où les localisations, parfois on s'en branlait un petit peu hein, de ce
voilà. Et on nous dit les embranchements c'est beaucoup trop complexe pour les joueurs US, je suis d'accord. Les embranchements c'est trop la folie. Comment tu veux faire ça?
Non mais bon, c'est je pense alors une des raisons qui a été avancée pour la suppression de cette partie là, c'est juste que le jeu était tellement long à traduire qu'en fait ce personnage c'est super verbeux. Je pense que pour des raisons de coût, ils ont supprimé une partie qui n'était pas la partie la plus importante en termes de scénario.
Mais c'est pas... Enfin, moi, honnêtement, je trouve que d'un point de vue purement pratique, ça tient la route comme explication. Je veux dire, les mecs te disent faut 6 mois pour faire la traduction complète, mais si on supprime ça, on n'a que 4 mois et qu'en fait, c'est pas... Voilà, bon, bah effectivement, ça fait 2 mois de coût en moins, c'est cohérent.
Et surtout, on parle de d'une série qui, je crois, avant Persona, devait y avoir eu un ou deux épisodes aux US grand max. Voire, c'était peut-être même le premier. Et donc, il y avait aussi un minimum de risque à avoir. En plus, ils n'ont pas fait beaucoup de jeux en dehors du Japon à l'époque de la PlayStation.
Voilà, on enchaîne avec Super Puzzle Fighters 2. Putain, pourquoi ? Alors, c'est un très bon jeu, hein, Super Puzzle Fighters 2. Mais non,
ce qui
quoi.
Mérite de sortir dans une collection comme
c'est
ça.
C'est ça. Autant il y aurait eu un Street Fighter quelque chose, et encore, parce que
Il n'y a pas le Alpha 3 ?
Non.
Je crois que... Attends, peut-être qu'au Japon, il y est.
Non, il n'y est pas non plus.
Non mais les nazes quoi.
Rival
School non plus. Oh. Si tu vas par là, Soul Edge non plus.
Oh. Il y a pas un Darkstalker ?
Non.
Mais, il y a que Tekken quoi.
Alors Tekken 3, c'est le jeu d'après. J'ai pas de soucis. Je veux dire, c'est représentatif de PlayStation. C'est un très bon jeu. Aucun souci. Enfin moi j'aime pas trop Tekken, mais globalement on peut pas me retirer le fait que c'est un très bon jeu. Enfin s'il faut remplir le slot jeu de combat, Tekken 3, excellent choix. Pas de problème. Battle Arena Toshinden, déjà, honnêtement moins. Mais pourquoi pas Soul Edge ? Soul Edge, pour moi, c'est un des jeux représentatifs de la PlayStation. Il y avait
surtout
quand même...
avec Soul Calibur 6 qui est sorti il y a pas longtemps.
Bah oui, ça, c'était une belle occasion ratée, je pense. Wild Arms, c'est un RPG, si je dis pas de bêtises, qui se passe dans le Far West.
C'est un jeu Sony aussi.
Voilà, choix intéressant, j'aurais dit. Peut-être pas extraordinaire, mais intéressant.
Ouais, t'as pas besoin de payer les licences à l'éditeur tiers.
Ouais.
Sauf que pour Gran Turismo, ils ont peut-être quand même eu un problème de licence, notamment pour les voitures.
Oui, et apparemment les musiques aussi. Hein.
Ah putain. Oh la gueule.
Oh, c'est con ça.
C'est con, hein, tu vois, quand tu fais des jeux où tu fais que des compositions originales dedans, bah au moins t'as pas ce problème là. Mm. Pic pic. Celle-là elle est gratuite, elle est pour moi. Pareil, on nous dit Soul River. Alors moi, Soul River, je suis pas.
Ouais, j'ai un super souvenir de ça.
Ouais, bah, garde le souvenir comme ça.
Hein. Oui, non, mais j'imagine que le truc a très, très mal vieilli, mais cet effet de morphing dans le décor, c'était assez novateur à l'époque, et le scénar et le level design, j'en ai un très très bon souvenir.
Ah, je pense que la version Dreamcast vaut peut-être le coup d'être faite, parce qu'elle doit mieux tourner, bêtement. Je me dis que c'est aussi bête que ça, ça doit quand même un peu mieux marcher. On va passer aux exclus occidentales, parce que comme pour la NES Mini, la Super NES Mini et tout ça, il y a des jeux qui sont exclusivement en Occident, et des jeux qui sont exclusivement au Japon. Alors là, c'est Japon, Taïwan, Hong Kong, mais je pense que ça change pas grand-chose.
Chez les Niak, quoi.
Ah, le bâtard.
Ah ouais, Galaxy, c'est pas là, ça se voit. Hein.
Ah voilà, de toute façon, il y a plus de respect. Cool Borders 2.
Cool.
Là, je me l'explique. Je suis certain que c'est pas un mauvais jeu, mais je vois quand même difficilement l'intérêt.
Il y a pas de Tony Hawk, hein, c'est ça.
Il y a pas de Tony Hawk, et c'est ouais, dommage. Parce que celui-là aurait peut-être été plus représentatif en l'occurrence. Mais... si tu voulais un jeu de sport, Tony Hawk, c'était plutôt le bon plan.
Ouais, pareil, Tony Hawk sans stick, c'est l'enfer.
J'ai jamais joué à Tony Hawk, hein, donc. Non, j'ai vraiment jamais joué à Tony Hawk parce que j'ai jamais vu l'intérêt du truc.
Oui, non, mais voilà, mais après, moi, je parle de ça quand j'étais jeune sur GameCube. Hein.
Non, mais voilà, mais après, je veux bien imaginer que c'est peut-être très bien, mais je me dis que globalement, moi, je parle juste, je trouve ça plus représentatif Tony Hawk que Cool Borders. Mm. Voilà, c'est tout.
Moi aussi.
Destruction Derby, pourquoi pas.
Représentatif. Avec ses temps de chargement fantastiques.
Ah putain, ça, je n'ai pas de souvenir de ça.
Ça, c'était ouf. Pour le coup, c'était une putain d'amélioration du 2.
Bah, alors là, du coup, voilà, pourquoi pas le 2. Tu sais, c'est comme Resident Evil 2, je veux dire, le meilleur jeu, c'est quand même Resident Evil 2, le Resident Evil, c'est quand même un jeu qui était... Destruction Derby aussi, ça doit être un des jeux qui est sorti en premier sur la PlayStation.
Ah, c'est le premier que j'ai eu, en tout cas.
Et on parlait de jeux de course, alors, Ridge Racer, oui, Destruction Derby, pourquoi pas, Need for Speed...
C'est lequel? Putain, je me rappelle pas.
Il y a Need for Speed, il y a Need for Speed 2, il y a un Need for Speed Porsche Challenge pour moi sur PlayStation, je suis pas sûr. Hein. Ça, c'est des souvenirs qui datent de très 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 loin.
Donc c'est l'époque avant le délire Fast and Furious, Jackie Tuning.
C'est ça, ouais, voilà. Okay. Où le truc était un peu sérieux. Gran Turismo, évidemment, on en a parlé tout à l'heure.
Est dedans, Gran Turismo?
Non, il est pas dedans.
Ah!
Il est pas dedans. Bah, justement, ça fait partie des problèmes un petit peu. Merde, il m'a échappé. Ah, c'est con.
Décris-le. Burnout.
Non, pas Burnout. Wipeout.
Ah, Wipeout.
Il n'y a pas Wipeout.
Et ça, c'est chaud, par contre.
Ouais.
C'est très chaud, parce que là, c'est une licence first party. Ouais, ni Wipeout, ni Wipeout 2097, ni Wipeout 3. Sur les 3, il y en avait bien un qui était quand même faisable, je pense.
Ni Extreme G, d'ailleurs.
Extreme G n'est pas sorti sur PlayStation, je crois.
Ah ouais.
Il me semble bien.
C'est plus.
Bref, bon. La suite. Grand Theft Auto.
Le tout premier, là.
Putain,
bah, le 1, franchement, c'est la purge.
Sachant que le 2 est mieux.
Sachant que le 2 est pas...
Et que c'est surtout le 3 qui compte, en fait.
Mais complètement, c'est le 3 sur PlayStation 2 qui est vraiment milestone, un jalon un peu représentatif, quoi. Bon, bref. Oddworld Abe's Odyssey, pareil. Alors, pas grand-chose à redire. C'est représentatif. Après, est-ce que c'est un bon jeu?
Voilà, il est très bon, mais tu me
parles... C'est un bon jeu.
Tu me parles d'une sélection de jeux de PlayStation, j'aurais jamais pensé à celui-là. Pourtant, le jeu est excellent, quoi.
D'un côté, justement, ça peut être intéressant de mettre d'autres jeux. Le problème, c'est que là, on n'a pas une base qui est assez bonne pour qu'on puisse permettre de mettre des jeux qui sont un peu plus confidentiels et un peu moins grand public.
Ouais, voilà. Si t'avais eu 20 jeux exceptionnels, vraiment ultra représentatifs de la PlayStation et que t'avais 10 slots supplémentaires, tu mets un Oddworld, moi, ça me choque pas. Mais Oddworld en soi, ça me choque pas. C'est effectivement un jeu qui est représentatif de la PlayStation. C'était voilà, ça faisait partie quand même des gros jeux, même si c'est pas une licence de ouf. Rayman.
Ouais.
Bon, voilà.
Normal.
Note, normal, j'ai envie de dire.
Un titre emblématique.
J'aimerais bien avoir. J'aurais préféré l'avoir sur Jaguar Mini.
Vous voulez pas la version SNES?
Non, alors la version SNES, un jour, j'aimerais bien l'avoir aussi. J'aimerais bien pouvoir y jouer en fait.
Il y a vraiment une version SNES ?
Il y a un prototype de la version Super NES qui a été déterré par Michel Ancel. Il a posté genre deux photos sur Twitter ou Instagram ou je sais pas quoi il y a 6 mois.
Eh mais on apprend des trucs dans cette émission, c'est
bon. Mais complètement, c'est ton émission culturelle du mercredi soir.
Excellent.
Siphon Filter.
Bordel.
Alors qu'on avait présenté à l'époque comme un concurrent, alors pas un concurrent, qu'on avait présenté comme le truc qui allait exploser GoldenEye, bon moi personnellement je pensais que ça n'avait pas été plus loin que ça.
Est-ce que c'est celui-là qui se contrôlait à moitié au micro ?
Alors là j'en sais rien du tout.
C'est peut-être de PlayStation 2.
Avance devant.
Oh non, putain, mais voilà. Odama, ça se
passe. Siphon Filter, bon. Ok. Il fallait un FPS. Moi j'aurais
Medal of Honor,
c'est ça, c'est plus ça auquel j'aurais pensé, c'est vraiment le jeu pour moi qui était représentatif.
Les FPS console à l'époque, en plus sans le double stick, bonjour la galère quoi.
Bah c'est pas ça, c'est surtout que sur N64 les FPS console marchaient très bien, sur PlayStation c'était déjà beaucoup plus compliqué. Mais il y en avait quelques autres, il y a Quake 2 je crois qui était porté, ou Quake 2 je sais plus, le 1 ou le 2 qui était porté sur PlayStation. Qui était plutôt un bon portage en plus, donc c'est dommage quoi, c'est une occasion ratée. Tom Clancy's Rainbow Six, qui a demandé ça.
Je sais pas ce qu'il vaut celui-là.
Je me rappelle pas.
C'est de la merde.
Ah ouais ?
Ah mais c'est de la grosse merde. C'est le jeu, tu vas dans n'importe quel Easy Cash en France, il est dans un bac de jeux à 1€, dans le meilleur des cas. Hein. Personne n'en veut de ce truc-là, enfin c'est vraiment de la merde. Celui-là, ouais, je ne comprends pas. Hein. C'est vraiment,
ils ont dû se dire, avec le Rainbow Six Siege et tout, c'est l'occasion de leur mettre devant, ça va plaire aux gens, ça leur parle.
Rainbow Six, c'est un jeu qui est emblématique du PC, jamais de la PlayStation.
Putain, c'est triste.
Oui, mais bon, je pense qu'ils ont eu des problèmes à avoir les autres jeux intéressants.
Bah, ouais, mais je sais pas, même dans la série, Tom Clancy sur PlayStation, il n'y avait pas grand-chose, mais pourquoi celui-là ? Il n'y avait pas mieux à faire, quoi. C'est-à-dire que tu mettais n'importe quoi d'autre au lieu de Tom Clancy's Rainbow Six et ça marchait, quoi. Ça, c'est le truc. Celui-là, c'est vraiment... Les autres, c'est des points rouges. Lui, c'est un point noir, quoi. Tu peux pas expliquer celui-là. Je ne comprends pas d'où il sort. Vraiment. Il y avait un million d'autres trucs à mettre à la place, quoi.
Oui.
Bref, Twisted Metal. Alors, Twisted Metal, en Europe, tout le monde s'en bat les couilles, mais aux États-Unis, c'est un très gros succès.
Ok, pour moi je me suis cantonné à la démo, j'ai vu l'intégralité du jeu dans la démo.
Bah ça reste, c'est un Vigilante 8, c'est un jeu de caisse avec des canons en arène. C'est le mode arène de Mario Kart 64, mais en moins bien.
C'est ça.
Et avec des clones.
C'est ça. Mais c'est un très très gros succès aux États-Unis. Alors, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que Sony parle de Twisted Metal, en Europe tout le monde s'en bat les couilles, au Japon tout le monde s'en bat les couilles, et aux États-Unis ils sont super contents. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une conférence de l'E3 de Sony il y a...
Ils ont fini là-dessus.
Ouais, ils avaient fini là-dessus parce que c'était le jeu. Ouais, c'était cool. C'était Twisted Metal, machin.
Deux US.
Il sera à toi pour toujours.
Et on finit avec les exclus japonaises. Donc il y a Arc de l'AD 1 et 2. Très bien, merci. Armored Core. Alors, c'est pas un jeu Hideo Kojima, ça aussi ?
C'est From Software.
Ah merde, c'est From Software. C'est pas mieux.
À l'époque de Kingsfield et pas de Dark Souls.
Mais Kingsfield qui est Dark Souls en encore moins intéressant, si c'était possible.
C'est proto Dark Souls.
Je sais pas ce que ça vaut Armored Core, je connais pas du tout. Donc.
Je connais deux noms, je sais qu'il y a des gros mechas, mais j'ai jamais vu ou testé.
D'accord, bon, on pourra peut-être pas en dire grand chose. Il y a deux shoots après, j'ai Darius, alors qui est un bon Darius, mais Darius, moi j'aime pas ça. Donc voilà, et Gradius Gaiden qui est forcément un bon jeu puisque c'est un Gradius. Donc là-dessus, pas de soucis. Parasitive, alors pareil, c'est peut-être un peu dommage qu'il soit pas dans la version occidentale celui-là, tu vois, au lieu de Tom Clancy's Rainbow Six par exemple.
Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de militaire en flingue dans le jeu.
Ouais, peut-être, il manque des mecs en treillis.
C'est ça.
Saga Frontier, alors je ne connais pas du tout Saga Frontier. Donc,
c'est un truc Yannick Noah, tout ça.
Oh putain.
Galaxy, c'est pas là, je me lâche.
Mon Dieu.
C'est pas possible.
Saga Frontier, c'est une... Enfin, Saga, c'est une saga. En voyance de la blues de Square. Et je pense pas que ce soit le... Alors, en fait, je sais pas si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. C'est un jeu qui était connu à l'époque pour te laisser un peu libre de tes mouvements pour faire le scénario. Mais en jeu Square, sur PlayStation, t'avais des trucs genre Xenogears, Chrono Cross ou Final Fantasy Tactics qui étaient vachement plus intéressants, je pense.
Bah, je sais, en même temps, je me dis que c'est pas un mauvais jeu non plus.
C'est pas un mauvais choix.
Voilà.
Et en fait, si tu prends tout ce qu'a sorti Squaresoft à cette époque sur PlayStation, Saga Frontier, c'est un choix un peu étrange si tu mets pas les autres, quoi. Enfin,
ouais, c'est peut-être ça en fait. C'est,
encore une fois, j'ai pas joué au jeu, mais c'est pas le premier qui vient en tête. Quoi.
Dans la liste des Square Enix à mettre dessus, il est clairement pas troisième, quoi.
Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est
vrai qu'entre deux, il y a Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Enfin, il y aurait pu y avoir 2-3 autres bricoles quand même.
Ouais, c'est ça. C'est déjà surprenant, tu vois. À la place, il est pris la place d'un Final Fantasy. Enfin, si on peut pas prendre de place, mais. Alors, ça me paraît toujours étrange d'avoir pris ce choix-là. Alors, après, je pense pas que ce soit un mauvais jeu, mais.
Et donc, le dernier jeu, c'est Xi, je sais pas exactement, X-I, ça s'écrit. Alors, c'est le fameux jeu avec des dés qui roulent.
D'accord, donc, c'est le jeu de 6, quoi. Okay.
Voilà, t'as des dés, et en fait, quand t'arrives à assembler 5 dés de 5 les uns à côté des autres, ils disparaissent, et tu peux faire des réactions en chaîne et tout ça. Alors, c'est intéressant pour une chose, c'est que c'est un jeu Netyarose, qui était une initiative de Sony au Japon, pour que les petits japonais apprennent à programmer sur PlayStation, donc ils avaient fait des espèces de kits de développement, qui étaient grand public, et qui coûtaient pas si cher que ça, c'est-à-dire genre pour l'équivalent de 200$, tu pouvais acheter un kit de développement PlayStation, et il y a eu une compilation qui s'appelait Netyarose, je crois qu'il y en a même eu deux, Netyarose 1 et 2, qui en fait étaient soit des démos techniques, soit des prototypes de jeux, ou des choses comme ça, et en fait le seul qui a eu une sortie commerciale derrière, c'est celui-là. Donc c'est quand même, je trouve intéressant, c'est... Voilà. Après ça reste un puzzle game, donc c'est le 3 ou 4ème, ce qui, voilà, sur 20, merci. Et du coup, voilà, donc pas de Spyro, pas de Crash Bandicoot, pas de Gran Turismo.
C'est parce qu'il y a les remakes pour les deux premiers.
Bah ouais, mais du coup c'est quand même très con.
Y a pas de Tomb Raider aussi ?
Y a pas de Tomb Raider, alors...
C'est... Le 2 ça aurait été bien.
Le 2 ça aurait été bien, même si les gens, je pense, se seraient rendu compte que c'était une
arnaque.
C'était
de la merde.
Oui, voilà, mais globalement, ça aurait été représentatif de la PlayStation.
Il n'y a pas de Medieval non plus, bon, lui, ouais, va avoir un remake.
Ah ouais ?
Ouais, Medieval va avoir un remake, mais il n'est pas dans la PlayStation Mini. Moi, si je
pas de Silent Hill.
Pas de Silent Hill, exact.
Ça, c'est dommage, par exemple.
Mais c'est Konami. Ah bah non, ils ont sorti Metal Gear dessus. Pas Castlevania Symphony of the Night d'ailleurs.
Ah, il est sorti il y a une semaine sur PlayStation 4.
Oui, c'est ça.
4.
Il y a mais pas de. Non, pour sur RPG, t'as même pas des trucs de NX genre Dragon Quest 7. Bon, ils ont jamais mis Dragon Quest dans les mini pour l'instant. Mais, ou pas de Valkyrie Profile ou Star Ocean, les jeux de Trias qui étaient quand même plutôt populaires, de mémoire.
Il n'y a pas de Grandia non plus, qui est quand même un jeu assez, assez populaire aussi. Mais c'est facile, tu vois, tu prends la liste des jeux les plus vendus sur PlayStation, tu prends la liste des 200 jeux les plus vendus sur PlayStation, je crois qu'il y en a genre 2 qui sont dedans, quoi. Et quand tu fais un truc un peu représentatif, alors ok que tu mettes des trucs comme Jumping Flash, parce que, bah oui, c'était un des premiers jeux, tout ça, t'as le facteur nostalgique, je le comprends.
C'est pour ça qu'il y a Battle Arena Toshiden, hein, nous ne voulons pas la face.
Mais que t'aies pas des trucs comme Soul Edge, que t'aies pas des trucs comme Gran Turismo, que t'aies pas des trucs comme Need for Speed, que t'aies pas des trucs comme Wipeout, putain, Wipeout, c'était compliqué, Wipeout.
Alors bah, c'est une licence Sony, ça.
Mais je pense que c'est la musique qui pose problème dans ce cas-là, mais à la limite, tu la changes, la musique. Pire des cas, voilà, tu te démerdes comme ça. Je trouve ça hallucinant, quoi. Ce chiage, en règle, me fait un peu halluciner. Mais bon, voilà, quoi. Donc la PlayStation Mini, je pense que c'est l'échec annoncé. La question, c'est est-ce que ça va, du coup, mettre une espèce de point d'arrêt aux consoles mini ? Est-ce que vous voyez Sega, qui a déjà reculé sur la Mega Drive Mini, c'est-à-dire qu'ils ont déjà dit « Hop, 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 attendez, on reprend le projet en main, on va faire un truc bien. » Est-ce que vous pensez que Microsoft va y regarder à deux fois avant de faire une Xbox Mini, ou va peut-être pas le faire du tout, parce qu'ils avaient un programme de rétrocompatibilité sur Xbox One qui était assez avancé ? Est-ce que vous croyez que Nintendo, qui a déjà déclaré que la N64 Mini, c'était pas pour tout de suite, va aussi lever un peu le pied en se disant « Bon, faut quand même qu'on fasse attention, parce que ce sera pas la réussite à tous les coups. » Voilà. Est-ce que vous pensez que l'échec programmé, parce que je suis désolé, je vois pas comment ça peut marcher, à part si elle est ultra piratable.
Il y a marqué PlayStation dessus.
Ouais, c'est ça le truc.
Mais attends, même les fans de la PlayStation n'en ont rien à foutre. Faut arrêter.
Elle est vendue quoi, 100 balles, c'est ça ?
100 balles.
100 balles en plus.
Après, ouais, c'est cher. Moi, c'est les 100 euros qui, à mon avis, vont.
Ça achève de tuer personnes. Le truc. Hein.
Bah, c'est ce qu'on disait de toute façon déjà il y a deux semaines. Au final, l'avantage des NES et Super NES Mini, c'était leur prix qui pouvait encore être acceptable en achat coup de cœur. Donc le mec qui a 30, 35, 40 ans avec ses gamins, enfin c'est typiquement vous quoi, qui se balade en supermarché, qui voit ça.
Qui se balade en supermarché le samedi en jogging, voilà. Et en tong.
Et en crocs. et qui se rappelle les bons souvenirs, qui a lâché les jeux vidéo il y a 10 ans.
L'état du monde quand t'as 40 ans, tu vois.
Putain, affreux. Du coup, c'est vrai que là... cet aspect coup de cœur, ça va peut-être bloquer un peu. La barre symbolique des 100 euros, ça va faire mal, je pense. Et puis merde, la sélection, ils vont pas s'y retrouver les mecs. Enfin, tu veux acheter une PlayStation, tu te dis c'est une console emblématique de la 3D, la première avec les disques et tout, enfin dans la tête des non-joueurs c'est quand même important, et ils se retrouvent avec GTA 1. Putain, oui, GTA 1 c'est...
Mais ouais, non mais GTA... Non mais attends, Rainbow Six, putain. Cool Borders 2.
Ouais, Cool Borders 2, c'est sacrément...
Voilà, simplement, qui va lancer... Vraiment, hein, je pose vraiment la question. Qui va lancer Cool Borders 2 ou Rainbow Six ou Battle of Toshinden? Je pense qu'il y a des gens qui le lanceront.
Toshinden, je serais capable, ouais. Juste mais, pour me marrer de me dire, bordel, j'ai été con d'avoir bandé sur ce truc à l'époque.
T'arrêteras au bout de 5 minutes, quoi. Il y a des jeux, tu vas les lancer, et tu les lanceras, tu verras qui marche, tu seras content, et puis tu vas raccrocher. Que des gens refassent Metal Gear Solid, pourquoi pas? Je pense qu'il y a des gens qui le referont. Resident Evil, c'est pareil, il y a des gens qui y rejoueront, why not, j'y crois. Mr. Driller, qui c'est qui va le finir, quoi? Enfin, personne, tu vois, les mecs, ils vont le lancer 5 minutes, ils vont arrêter, et voilà. Et pour le problème, c'est ça, c'est pour 100 balles, pour on va dire 10 jeux potables et encore potables, vraiment pas la crème de la crème, qui va faire ça? Je sais pas. C'est quand même, pour moi, c'est incompréhensible. Ils avaient vraiment, je pense, l'occasion de faire quelque chose d'intéressant. Et je veux dire, on a l'habitude de cracher beaucoup sur Sony ici parce qu'on aime bien.
Ouais, mais c'est de bonne guerre, on va dire.
C'est de bonne guerre, enfin, il n'y a pas de souci. Là, je suis presque triste pour eux, parce que je trouve que c'est vraiment c'est un échec industriel, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a rien. Qui vraiment va aller en magasin, regarder l'arrière de la PlayStation Mini et se dire, putain, il y a Battle Arena Toshinden, je mets les 100 balles. Personne, quoi. C'est incompréhensible. Voilà. Alors, pas de dual stick, à la limite, pourquoi pas, mais voilà.
Ouais, fait chier, quand même.
Ah, on va mettre la pause musicale parce que je sens que.
À nos actes manqués, la pause.
Mais on commence à être vénère mental.
Mais oui. Alors attends, est-ce que ça va marcher? Non. Ah, attendez. Attendez, parce que je suis dans la merde.
Mais ça va vous sinon? Juste pour finir, une seconde version de la PlayStation Mini, c'est pas impossible puisque SNK a déjà prévu une nouvelle version de la Neo Geo Mini.
Ah, il rajoute quoi?
Spécial Noël avec des jeux en plus.
Ouais, il se foule.
En plus, il remplace que dalle, c'est vraiment en plus.
C'est vraiment en plus, et cette fois, tu as un câble mini HDMI pour pouvoir le mettre sur ta télé.
Les bâtards.
Putain, mais c'est vraiment l'arnaque. Bref, c'est pas grave. Donc on va s'écouter un petit morceau. Alors, comme on va fêter les 20 ans d'Ocarina of Time, on va pas écouter d'Ocarina of Time.
N'est-ce pas?
Parce que ce serait logique, et la logique ici, on n'aime pas du tout. Donc on va écouter un petit morceau d'un jeu qui est très cher à mon cœur puisque c'est un jeu de mon enfance sur Super Nintendo, j'allais dire sur PlayStation. J'avais pas de PlayStation, je me respectais un peu. Le jeu s'appelle Unirally en Europe, Uniracers aux États-Unis, et c'est un jeu de course de monocycle qui a été malheureusement retiré de la vente. Parce que Pixar a attaqué l'éditeur du jeu parce qu'ils auraient volé leur design de monocycle. Oh. Ce qui est quand même d'une tristesse sans nom. Et donc, voilà, c'est un jeu que moi j'ai adoré, que j'ai torché dans tous les sens. C'est un jeu de course qui part dans tous les sens, c'est la folie, on peut faire des stuns, c'est super rigolo. Et on va donc écouter l'écran d'accueil, ça dure un petit peu moins de 3 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et on continue avec les mauvaises nouvelles pour Sony, puisqu'on était parti pour taper dessus. Et que ça nous fait plaisir. Donc Sony, grand absent de l'E3 2019, avec 5 ans de retard, 5 ans que je dise, presque 7 maintenant.
Déjà ?
Bah, les premiers Nintendo Direct, pour moi, c'était l'E3 2012-2013.
Le temps passe vite.
Non, attends.
C'est pas possible.
C'était à l'époque de la Wii U.
C'était à l'époque de la Wii U.
2012, ils ont présenté la Wii U.
Smash, attends.
2012, ils ont présenté la Wii U. Donc je pense que c'est 2013 ou 2014.
C'est potentiellement 2013 ou 2014. Bref, Sony ne sera pas à l'E3 2019 et ne tiendra pas de conférence.
Alors, pas comme Nintendo qui est pas à l'E3, mais en fait tient juste pas de conférence, mais présent sur les salons. Eux, c'est ils seront même pas sur le salon.
Ah putain, j'avais pas capté ça, moi.
Oui, là, c'est vraiment la grosse différence.
C'est, ils seront complètement absents, comme Electronic Arts, en fait. Ils feront peut-être leur truc à côté, on sait pas.
Ah merde, j'avais pas tilté. Donc en fait, Electronic Arts se barre aussi.
Non, eux, ça fait un moment qu'ils l'ont fait. Hein. Mais en vrai, quand tu...
En même temps,
tu...
si c'est pour présenter le nouveau FIFA tous les ans... Bon...
Quand tu regardes bien les gros éditeurs présents à l'E3, Electronic Arts n'y est pas. Tech2 n'y est pas. De mémoire, Activision n'y est plus depuis quelques temps. Enfin, ils sont présents avec les conférences...
Oui, ils ont quand même leurs conférences. Et puis, il n'y a pas Blizzard qui y est, si Activision... Enfin, tu
non,
vois,
Blizzard, ils font leur BlizzCon à côté. Ils n'ont pas besoin d'être présents sur l'E3.
Ah, mais le je truc crois... où ils parlent de Diablo sur téléphone, là, ouais.
Oui, c'est ça. Et du remake de Warcraft 3. Et ah, du remake de la première version de World of Warcraft.
On nous dit que c'est parce qu'ils n'ont plus rien à présenter.
Exactement. du coup, donc... Activision, je ne sais plus. Je les vois... je sais plus s'ils ont un stand ou pas. Ils n'ont pas de conférence, mais je sais plus s'ils ont un stand.
Un Conf of Duty.
Conf of Duty, ouais. Et de mémoire, Microsoft n'y était pas l'année dernière.
Ils avaient une conférence, par contre.
Alors, ils avaient
qui
leur
était
conférence.
Très chiante.
Ils avaient leur conférence, mais ils étaient genre dans leur coin. On va faire notre truc à part, un petit peu plus loin. Parce qu'on a envie d'avoir de la place pour nous, tu vois.
Bah, ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être une question de coût-bénéfice aussi, parce que ça doit coûter un pognon monstrueux à organiser. Et le bénéfice
un pognon
réel,
de dingue
le bénéfice réel, c'est quand même juste te faire mousser au mois de mai, qui n'est pas la meilleure période de l'année. Pour moi, la GDC, par exemple, est beaucoup mieux placée dans le calendrier. Et c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc c'est pas illogique, en fait. Hein. Rationnellement, l'E3, ça plus tellement de sens, surtout que maintenant les éditeurs peuvent faire des événements presse ou des annonces un peu comme ils veulent finalement.
Oui.
Donc je sais pas. C'est peut-être une beaucoup plus mauvaise nouvelle pour l'E3 lui-même.
En fait, y a un certain avantage, je trouve, c'est que vu qu'on a vu par exemple Bethesda qui est arrivé avec Devolver, ça peut être intéressant aussi pour mettre en lumière des éditeurs qui étaient un peu plus petits et éviter un peu en fait de trop mettre en avant les gros éditeurs et gros constructeurs qu'on voyait déjà tout le temps de toute façon. Et si ça se trouve, l'E3, ça va devenir une sorte de grand messe du jeu vidéo,
mais
éditeur tiers. Et ça peut être un peu intéressant, justement. C'est second couteau qu'on voit moins souvent. Ça peut être un bon point.
Après, ça reste un gros salon sur le sol américain. Tiens, petite précision pour Microsoft. En fait, eux, ils avaient un espace à part, mais en partenariat avec les mecs qui font l'E3.
Oui, ils n'étaient pas dans le Convention Center.
Il y avait le Microsoft Theater qui était à deux pas du Convention Center de Los Angeles.
Il suffisait de traverser la rue.
Exactement.
Voilà, c'est le président de Microsoft qui l'a dit. Donc il suffit de traverser la rue et peut-être que tu trouveras une console.
Pour peut-être jouer aux jeux vidéo.
Microsoft qui a donc sorti la Xbox et qui après a fait de funestes choix. Ouais. Non, ça va. Je
Bingo.
On leur a tout fait aujourd'hui. Hein.
Ah, mais je crois qu'on les aura tous fait aujourd'hui. Voilà, donc Sony absent de l'E3 2019. Ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'on aura une conférence de moins à pas couvrir, parce qu'on la couvrait déjà pas parce qu'elle était chiante.
Bah, surtout, c'est donc, la seule conférence. C'est la conférence qui était toujours à 3h du mat.
Donc ça fait un moment qu'on la faisait plus parce que c'était chiant.
Bah, c'était un peu la blague des journalistes français. C'est au moins l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à rester éveillé jusqu'à 3h du mat, quoi.
Bah ouais, mais en même temps je comprends parce qu'effectivement en plus elle est en général assez chiante. Donc
elle est souvent très longue. Elle est très longue, ouais.
Puis alors les mecs sont nous sommes les leaders du marché, t'as vu, j'ai une cravate. C'est à peu près ça. Je suis désolé, hein, mais bref.
Mais du coup ça.
Je me rappelle de la super conférence où ils avaient présenté. Je te prie de m'excuser.
Vas-y.
Ils avaient fait tout un truc sur Tiger Woods PGA Tour en disant la balle est tellement réaliste. Et t'es là genre putain mais on se fait tellement chier.
C'est vrai qu'elle est réaliste la balle. Hein.
Mais putain mais merde. Bon, allez, sujet suivant, on va pas s'étaler là-dessus. Alors, juste pour conclure,
ça va être quand même un coup dur pour le 3 parce que c'est le leader actuel du marché en termes de, au niveau des consoles. Et il y a des gens qui pensent qu'ils vont faire la passe parce qu'ils n'ont pas vraiment de nouveautés à présenter. Bon, ça, on pourrait quand même préciser qu'il y a un Last of Us qui va sortir en fin d'année, probablement 2019, et que ce sera quand même
les jeux interactifs, super.
Ouais, t'as vu, hein. Non, bah... mais ils vont sûrement faire un truc à côté, comme ils font déjà jusqu'à présent avec le PlayStation Experience, c'est ce genre de conneries. Et la conférence sera pour la Paris Games Week, qui est le nouveau plus grand salon du jeu vidéo.
Ah merde, ça fait mal, ça.
Non, c'était une blague la dernière.
nous allons donc changer complètement de sujet, puisqu'on a fini le Sony bashing pour ce soir.
Mais on va parler gros sous.
Un couple d'Américains a donc été condamné à l'amiable, hein, nous précisons, à 12 millions de dollars d'amende.
À l'amiable. Hein.
À l'amiable.
C'est pas condamné si c'est à l'amiable.
C'est pas comme si, parce qu'en fait, l'arrangement est à l'amiable.
Oui, mais du coup, c'est pas une condamnation.
Bah non, si, c'est une condamnation, parce qu'apparemment, aux États-Unis, on peut être condamné et avoir quand même un truc à l'amiable.
Ta gueule.
Il me semble, hein. Après, je suis pas spécialiste du droit américain, mais il me semble que c'est parfaitement légal.
Faut juste que tu dises pardon, je ferai plus.
Voilà. Non, ça, en fait, ça n'empêche pas le jugement. C'est la sentence qui est en gros à l'amiable, mais ils ont quand même été condamnés.
Oui, mais chez nous aussi, on peut passer par un mode alternatif de règlement des litiges, mais c'est pas. Enfin bon, on va pas parler de ça maintenant, c'est
oui,
pas
voilà,
intéressant.
Oui, voilà, mais le mode alternatif des règlements des litiges, en droit latin, oui, en droit anglo-saxon, non.
En droit français,
t'es quand même condamné. T'es condamné, mais pas à la peine maximum.
Je déteste la common law.
Je suis d'accord, rien que la jurisprudence, par exemple, c'est un truc qui permet de. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Bref, nous n'avons pas parlé de loi ici. Putain, j'aurais vraiment dû faire juriste comme taf. En fait.
Santé.
Merci. Donc, ils hébergeaient, en fait, depuis quelques années, un site qui s'appelle Love Roms et un autre site qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai plus le nom.
Il y a Roms dedans.
Il y a Roms dedans.
Il y a sûrement des Roms.
La route du Rome.
Tout un tas de Roms, notamment NES.
C'est illégal, ça, monsieur.
C'est totalement illégal. Notamment NES, Super NES. N64, et je crois que c'est à peu près tout. C'était les consoles cartouches Game Boy Color, et ainsi de suite.
Pas le Virtual Boy, alors
Je sais pas, je suis pas sûr, okay. Je pense que si, mais à mon avis, c'est pas pour le Virtual Boy qu'ils ont eu 12 millions d'euros d'amende.
Ah. Non, c'est peut-être pour ça, justement, pour que Nintendo supprime le Virtual Boy de son histoire.
Ah mon dieu, c'est peut-être ça qui s'est passé. Voilà, donc ils mettaient à disposition des ROM. Alors le problème, c'est que. Il y a la partie infraction à la loi du copyright, donc effectivement Nintendo a un copyright sur la plupart des ROM qui sont édités sur ces plateformes-là, et même sur celles où il n'en a pas, en fait, il a quand même des droits qui sont réservés, c'est-à-dire que vous vous appelez, je sais pas comment, vous sortez Unirally sur Super Nintendo, qui est un très bon jeu, bah Nintendo a quand même certains droits sur Unirally, un certain nombre de royalties qui sont restés de l'époque, donc certes, vous, si vous attaquez pas le site, la ROM pourrait rester, si vous êtes le développeur de ce jeu-là, mais en fait, Nintendo a le droit aussi de l'attaquer, il n'est pas obligé d'avoir l'éditeur ou le développeur de chaque jeu derrière lui. Il peut très bien attaquer un site qui héberge juste la ROM d'Unirally. Ce qui est un peu curieux, mais c'est comme ça. Ouais. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que de mémoire, je dis bien de mémoire, c'est la plus grosse amende qui ait jamais été sortie dans ce domaine, sachant que jusqu'à présent, j'ai l'impression que les condamnations étaient rares et qu'elles allaient rarement jusqu'au bout. En général, le site était fermé et c'est à peu près tout.
C'est ça, ils faisaient flipper les gens, les mecs retiraient les trucs avant que ça aille.
Voilà, de mémoire, en tout cas, je n'ai jamais vu que ça aille aussi loin que ça. 12 millions de dollars de dommages et intérêts, c'est quand même monstrueux. Et on nous dit Love Retro pour l'autre site, c'est Love Roms et Love Retro, donc merci. Ce qui est inquiétant, c'est que moi j'avais l'habitude d'aller sur planetemu.net, qui est un site qui est tenu par deux petits Français fort sympathiques, pour récupérer des ROMs quand j'en avais besoin, et les mecs ont tout retiré.
Ils ont fait le clean, ouais.
Ils ont fait le clean, et c'est pas les seuls. Hein. Monde Emule, il y en a tout un tas d'autres qui ont fait le grand ménage de printemps en supprimant tout ce qui est Nintendo. Donc tu peux toujours trouver des ROM pour Mega Drive, pour Master System, donc pour des jeux qui n'ont aucun intérêt. Mais les vrais jeux intéressants, bah, ils sont plus là. Voilà, c'est quand même inquiétant. Alors je pense qu'en termes de conservation de patrimoine, vous savez que c'est un thème qui nous est cher au Dojo Bar.
Faut
qu'on la finisse cette émission. Je pense qu'il n'y aura jamais de problème. En réalité, ces ROM là, elles ont été dumpées il y a des années. Il y aura toujours des copies disponibles.
Et au pire, il y a les versions console virtuelles et SNES Mini et compagnie, tu vois.
Ouais, mais t'as pas tout qui est ressorti là-dedans. C'est-à-dire que si tu veux, tu veux rejouer à Final Fantasy 2, c'est compliqué. Surtout, il y avait quand même des énormes communautés de traduction de ROM, notamment. Qui faisait des choses très intéressantes et qui rendait des jeux exclusivement japonais vachement accessibles.
Bah, j'ai joué à la suite de Secret of Mana en français. Bon, il y a ça une quinzaine d'années maintenant. Alors qu'il est exclu au Japon.
Oui, tout à fait.
Pas de traduction française a priori. Voilà.
Alors, on nous dit qu'en fait, ils n'ont pas été condamnés pour les ROM elles-mêmes, mais pour le matos intellectuel de Nintendo qu'ils utilisaient dans leur pub. Alors, pour moi, ce qui est un peu. Ce qui est un peu. Pas forcément étrange, mais obscur pour moi, des gens qui hébergent des ROM, mais qui n'en font finalement, qui n'en tirent pas de bénéfices particuliers, ne risqueraient techniquement. Enfin, à mon avis, ne risqueraient pas de s'attirer les foudres de Nintendo. Par contre, à partir du moment où tu es un site comme, je sais plus quel est le très très gros site américain qui faisait de l'émulation et qui a été aussi descendu par Nintendo en début d'année, qui a dû enlever tout le matériel qui était Nintendo dessus, eux, enfin je veux dire, tu allais sur la moindre page, il y avait 40 bannières de publicité, et avant de télécharger une ROM, fallait regarder une pub et ainsi de suite, quoi. Donc clairement, les mecs, ça leur rapportait du pognon, hein. C'était pas une œuvre caritative et c'était pas une fondation à but non lucratif, hein.
C'est un peu la question que je me posais sur ce problème-là, c'est finalement, est-ce que les gens se faisaient de l'argent par rapport à... grâce aux ROM qu'ils hébergeaient, ou d'une façon quelconque, ou si c'est vraiment juste Nintendo qui a décidé de faire le ménage, quoi.
Pour moi, ils ont... Je pense qu'ils ont retiré un... Emu Paradise, ils ont dit, oui. Pour moi, ils ont retiré forcément un bénéfice substantiel. Sinon, je pense que Nintendo n'aurait pas dit grand-chose. Oui, je vois pas l'intérêt d'aller s'attaquer à un site qui, finalement, certes, a pignon sur rue, mais qui n'a pas des millions de visiteurs par semaine et qui, finalement, est géré par des amateurs qui payent ça eux-mêmes. Je veux dire, dans ces cas-là, Nintendox, que vous connaissez peut-être, qui est un site hébergé par un Français, qui essaye de récupérer, en fait, tous les pochettes, les boîtes. Donc, en fait, c'est un site où on a des scans de boîtes et ils sont restaurés par les gens. C'est-à-dire que les gens font des scans et vont aller effacer dessus toutes les imperfections, vont aller refaire, en fait, des boîtes toutes propres à partir des boîtes existantes originales. Ça n'est que du matériel copyrighté par Nintendo, hein. Le site s'appelle Nintendox et c'est le truc où tu peux vraiment aller... tu peux aller imprimer sur du papier cartonné des boîtes de jeux de Super Nintendo, Nintendo ou Game Boy, et les découper, les plier, et tout ça. Il y a vraiment... Le seul truc, c'est qu'il n'y a plus le code-barre, il y a écrit Nintendox dessus, ceci est une reproduction. Point. Mm-hmm. Mais techniquement, ils reprennent des images qui appartiennent à Nintendo, des logos qui appartiennent à Nintendo, du texte et des choses comme ça qui appartiennent à Nintendo. Bon, voilà, ce site-là est géré par un amateur, il est hébergé à 100% par lui, il n'y a aucune publicité dessus... Je pense que Nintendo s'en bat les couilles. Maintenant, le jour où il y a un mec qui te charge 1 ou 2 euros pour faire une boîte repro, peut-être que c'est pas tout à fait la même histoire.
Ah, puis je pense que c'est compliqué aussi de demander 12 millions à des mecs qui ne gagnent pas d'argent sur...
Techniquement, c'est une infraction au copyright, mais basiquement, tu leur demandes d'éteindre le truc et puis voilà.
Oui, non, mais est-ce que justement c'est possible de mettre une amende aussi élevée à des gens qui ne font pas d'argent sur... Sur cette infraction, tu vois.
Je pense que oui, de toute façon, une infraction, ça reste une infraction. Maintenant, est-ce qu'un juge mettra la peine maximale pour ça ?
Non, je pense pas.
Parce qu'après, il y a quand même une question de juger. Je rappelle, quand on dit que quelqu'un peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, ça, c'est le maximum.
C'est le maximum.
Personne ne donne jamais le minimum. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant, parce que la plupart des gens ne sont pas condamnés au maximum. C'est quand même assez rare.
D'ailleurs, il y a eu des cas d'infractions au copyright, peut-être même voire plus importantes que des ROMs. C'est les gars qui font des jeux amateurs. Et là, on parle pas juste d'héberger une copie, mais d'utiliser du matériau qui existe déjà pour faire un nouveau jeu. Ce qui fait que tu marches un petit peu sur les plates-bandes de l'entreprise aussi. Et eux, ils n'ont pas eu à payer. On leur a dit, ton site, tu le fermes gentiment, tu débarrasses l'exé de ton site internet, et voilà, quoi.
Mais tout à fait, comme des projets comme la traduction de Earthbound, de Mother 3, pardon, qui était la traduction anglaise de Mother 3, où les mecs avaient dit... Dès le départ, si Nintendo s'approche de nous de quelque manière que ce soit, on ferme tout. Et c'est écrit, c'est genre la première règle du truc, c'est de dire, de toute façon, si Nintendo nous demande le moindre truc, on ferme. On réfléchit même pas. Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire ça et qu'on est dans la limite. Maintenant, ils n'hébergent pas la ROM de Mother 3 sur Game Boy Advance, ils hébergent un patch qui permet, si tu as le jeu d'origine et que tu l'as dumpé toi-même, que tu as fait ton propre backup, d'aller le patcher pour l'avoir en anglais. Donc, c'est des cas un peu différents. Je sais, je sais pas quel est le point de vue Nintendo. Pour moi, c'est effectivement, comme disait Yoshirio sur le chat, mais voilà, c'est plus une espèce de trouille pour faire un gros ménage. C'est-à-dire qu'ils vont faire une crise d'autorité en mode caca nerveux une fois tous les 2-3 ans comme ça. Ça permet d'aller écrémer pas mal de gens. Ça fait que certains sites sont un petit peu plus clandestins. Ça fait que ça fout la trouille à un certain nombre de personnes. Et puis voilà. Et ça va en général pas plus loin que ça. Entre deux, il y en a un qui est tombé. Mais pour ceux qui ont déjà fréquenté la rue Montgallet, enfin voilà, ça ressemble à ça. Je suis désolé, hein. Tous les ans, il y en a un qui se fait fouiller par la police. Étonnamment, c'est chez lui qu'on retrouve tout un tas de trucs qui n'étaient pas tout à fait très très légaux ou déclarés. Et pendant ce temps-là, les autres se gavent toujours. Hein.
Oui.
Mais on a rempli les quotas, on est content.
Ça marche aussi avec les fraudes fiscales.
Tout à fait. Carlos, si tu nous écoutes, big up. Voilà, on va s'arrêter là pour ce sujet qui certes intéressant mais qui n'était pas plus voilà. Et on va écouter de nouveau un petit morceau de la bande originale du Nirali, parce que je vous emmerde, j'aime bien ce jeu. C'est toujours donc de la guitare électrique un petit peu énervée voilà, dans un jeu de course qui est bien délirant, encore une fois, hein. Et je vous rappelle d'ailleurs aussi qu'il a été développé par DMA Design, l'ancêtre de Rockstar, à l'époque où ils faisaient des bons jeux.
Putain, oui.
Et
oui,
voilà, oui. Dans vos culs. Là, vous venez d'apprendre encore un truc super intéressant gratuitement. Vous voyez.
J'étais pas né, donc tu sais.
Mais franchement, si vous pouvez choper la ROM de venir. Attendez. Ah mais non, ça va pas être possible.
Ah, il y a Planet Ami, marche plus.
Mais voilà, si vous avez l'occasion d'y jouer, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon jeu. C'est triste ce qui lui est arrivé de son vivant, puisqu'il a vraiment été retiré de la vente. Donc c'est à cause de Pixar, c'est une tristitude sans nom. Mais ça n'empêche pas que c'était vraiment un jeu très 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 amusant. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes, c'est la musique de la 5e course. Donc je suis désolé, elle n'a pas de titre particulier.
Oh, comment tu spoil.
Et oui, complètement.
C'est-à-dire qu'il y a plus de 5 courses.
Il y a plus de 5 courses, c'est complètement ouf. Voilà, et on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et nous allons fêter les 20 ans d'Ocarina of Time.
Joyeux anniversaire.
Exactement. Alors mon problème avec Ocarina of Time, c'est qu'en fait j'ai commencé à noter un truc, puis en me disant ah ce serait bien d'évoquer ça. Et donc.
Hier, rendez-vous la semaine prochaine.
C'est exactement ça. Hier je me suis dit, ah tiens, d'un point de vue jouabilité, il faudrait parler de ça. Hein. Et mon avis en fait c'est super organique comme mécanique et tout. Et je me suis dit putain, si on fait ça, on va faire une émission de 4 heures. Et ça va être très compliqué.
Et il le mériterait.
Et il le mériterait.
Mais on n'aura pas la force.
J'ai relu un petit morceau du livre d'Oscar Lemaire, hein, L'histoire de Zelda.
Très bon livre.
Excellent bouquin qu'on peut toujours vous recommander. C'est vraiment. Tonton Lascar, si tu nous écoutes, big up.
On attend la suite.
On attend la suite avec une grande impatience. C'était vraiment très très bien.
N'hésitez pas à utiliser le code de promotion d'aujourd'hui. Il est à 100% sur leur site.
Le gros bâtard. Mais vraiment, si vous pouvez le choper, chopez-le. C'est un excellent, excellent bouquin.
Alors, le bouquin, pas Oscar. Hein.
Bah, si vous pouvez choper Oscar, ça lui ferait super plaisir à mon avis, donc allez-y. Bref, non, choper le bouquin, il est vraiment très 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 bon. D'ailleurs, il y a une interview d'Oscar qui était dans un Dojo Beach il y a quelques mois, qui est toujours sur le dojo si vous voulez le regarder. Écoutez-le, il parle du bouquin. C'est vraiment, enfin, ce bouquin est exceptionnel et la partie Ocarina of Time vaut toutes les thunes du monde.
Oh putain.
Très bien raconté. À tes souhaits, ma chérie.
Il y a une revue de presse rétro en accès libre sur Ludostrie.
Ah, qui est tiré du livre d'ailleurs.
Sur Ocarina of Time.
Et qui est tiré du livre. Et la revue de presse rétro vaut son pesant de cacahuètes. Parce qu'il a été cherché de la presse japonaise, de la presse française, de la presse anglo-saxonne. Voilà. Donc.
Ça aide à se rendre compte à quel point à l'époque ce jeu a déchaîné les passions.
Complètement. Mais c'est la folie. Hein. C'était la folie.
On trouve que régulièrement pour des jeux type Zelda Breath of the Wild ou récemment Red Dead Redemption, la presse en fait trop. Et moi, je pense que c'était pire à l'époque d'Ocarina of Time.
C'était pire, mais ça se voyait peut-être un peu moins dans le sens où c'est surtout la presse écrite. Il y avait un peu de presse internet, mais c'était quand même très limité. C'était essentiellement des amateurs. Bah, décembre 1998, moi, je rédigeais déjà des trucs pour le dojo.
Ouais, non, mais enfin, des générations à part.
Non, mais quand tu regardais les sites d'information sur les jeux vidéo qui existaient sur internet en décembre 1998,
il y avait jeuxvideo.com.
Sur Minitel. Mais en fait, c'était le TAJV en version, tu sais, l'encyclopédie,
des trucs et astuces,
des trucs et astuces du jeu vidéo. Donc c'était la version Minitel qui existait avant, oui, qui était sur internet et c'est tout. Il n'y avait pas tellement d'actualité et tout ça. Il y avait Overgame qui faisait quelques trucs. Alors Overgame
c'était bon ça.
Oui mais non, alors c'était pas du tout le même site en fait.
Ah merde.
Pas du tout fait par les mêmes personnes. Et t'avais IGN en version anglaise qui commençait à faire des trucs. T'avais quelques sites qui faisaient des trucs. Mais en fait, t'avais pas tant de sources d'infos que ça sur internet. Donc c'était surtout de la presse écrite. Donc oui, elle était dithyrambique. Et à mon avis, à juste titre, au moins sur certains trucs. Mais elle n'était pas si visible que ça. Parce que Ocarina of Time a fait la couverture de tous les magazines pendant 2-3 mois, puis après c'était fini, quoi. Donc, parce qu'il fallait passer à autre chose, tout bêtement. C'est pas comme aujourd'hui, où un phénomène médiatique peut être surexposé sur Internet, parce que bah, forcément, tu le vois partout, tu le vois sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur machin, sur n'importe quel le truc qui est plus de près ou de loin un réseau social.
Alors moi je suis pas tout à fait d'accord sur le côté ça dure longtemps parce que je trouve que justement les jeux vidéo maintenant c'est la semaine qui s'est sortie c'est la super hype et après tout le monde est passé à autre chose. Et Red Dead 2 pour moi ça fait ça. Hein.
Moi c'était God of War, ça m'avait marqué.
God of War c'était marquant.
Le jeu est sorti une semaine après, rien à foutre.
Bah, alors que tout le monde en parlait putain.
Red Dead c'était un peu ça, c'est genre le premier week-end, oh, c'est trop bien et tout, enfin genre faisais des vidéos et en fait je pense
c'est
que...
C'est le jeu de l'année.
Non, et après les gens y ont joué.
Ça doit faire 2 semaines que j'ai pas vu grand chose sur mon fil Twitter quoi.
Oh quand même. Après, les gens en parlent peut-être moins, mais ils y jouent quand même beaucoup.
Oui, ils jouent, mais ils en parlent plus, tu vois.
T'as vu le temps, enfin, la quantité de trucs qui sort toujours sur Breath of the Wild aujourd'hui?
Ouais, ça par contre, c'est énorme.
Mais je sais pas, c'est genre.
Et le jeu se vend encore, en fait.
C'est ça, c'est pas 6 mois après la sortie du jeu qu'on avait vu le mec qui faisait de l'archerie avec des pommes.
Oui, on l'a vu récemment, nous. Hein. Enfin, moi, je me souviens que ça a été publié, genre, dans les 3-4 derniers mois.
C'est la folie. Breath of the Wild, c'est un jeu marquant. Et je pense qu'Ocarina of Time, s'il était sorti aujourd'hui, aurait été à peu près aussi marquant que ça. Évidemment, en admettant qu'on décale tout de quelques années. Hein,
Le jeu vidéo d'il y a 20 ans et maintenant.
Voilà, ce qui est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il a énormément marqué. Mais là, je pense qu'on ne pourra pas faire un meilleur travail qu'Oscar là-dessus, parce qu'il avait vraiment fait un boulot exceptionnel.
Ce qui est super intéressant à lire et à comprendre aussi, c'est aussi toute la mécanique de hypisation du jeu, ceci n'est pas un mot français, c'est que en fait, et je pense que tu peux repérer ce genre de choses sur des jeux qui sortent maintenant, la presse est tellement excitée par ce nouveau Zelda, qu'en fait il avait plus ou moins déclaré jeu de l'année en début d'année, hein, en 1998, alors
oui, c'était fou.
C'est un truc de dingue.
Non, attends, je crois que c'est Oscar qui avait dit que justement il y a des journalistes français qui l'avaient essayé en août 2018, une version de démo qui n'était même pas la version finale, en Allemagne, au siège de Nintendo Europe, et ils avaient genre essayé une démo de 30 minutes, et ils étaient revenus en disant « c'est forcément le jeu de l'année
».
Et quand tu joues maintenant, c'est une des anecdotes qui est dans le bouquin.
Quand tu joues maintenant Ocarina of Time, je pense que tu peux... Enfin, si t'as joué à beaucoup de jeux d'action en 3D moderne, tu vas te dire « mais qu'est-ce qu'il y avait de si révolutionnaire à l'époque Ocarina of Time ?» Bah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont basiques maintenant. Que ce soit par exemple les actions automatiques pour pouvoir grimper ou sauter par-dessus des petits précipices, ou la possibilité de cibler des ennemis, Ocarina of Time, c'est le premier à l'avoir fait. En tout cas, le premier à l'avoir bien fait.
Mais c'est... Il était à une avance... En termes de jouabilité, il avait une avance gigantesque sur son temps. Enfin, c'est quand même un truc de ouf, parce qu'effectivement, t'as cette histoire de bouton universel...
Qui était le bouton
contextuel. Enfin, c'est un truc que personne n'avait fait jusqu'à présent. Je me rappelle que je crois que c'est Tomb Raider sur PlayStation. T'as un bouton pour sauter, t'as un bouton pour t'agripper, t'as un bouton pour faire un pas de côté. Enfin, c'est infernal, quoi. Voilà, les mecs ils se sont dit putain, on a 8 boutons, il faut absolument qu'on mette une fonction sur chaque. Alors que chez Nintendo, ils ont dit au contraire, non. Un bon jeu, ça doit tenir sur 2 boutons. Ils l'ont fait.
Ouais,
j'exagère un peu, mais ils l'ont fait.
Il en faut au moins 3. Plus les objets.
Mais globalement, c'était voilà, effectivement, le bouton Z qui permet de cibler, c'est une Enfin, c'est une avance sur son temps extraordinaire. Et il y a un autre truc qui est quand même ouf. Je parlais de Navi tout à l'heure, mais voilà, Navi, c'est quand même une invention géniale parce que l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le joueur se repère correctement dans un environnement en 3D. Parce que dans un environnement en 2D, finalement, tu veux lire un panneau, ben, tu t'approches, t'appuies sur A. C'est con. Dans un environnement en 3D, parler à un personnage qui est plus haut ou plus bas que toi, qui est potentiellement plus loin, comment tu fais ? Et donc l'idée de Navi qui en fait va aller se rapprocher des trucs et changer de couleur pour te dire ce que c'est, un objet avec lequel tu peux interagir, un mec avec lequel tu peux parler, un ennemi qui va le décrire aussi, mais c'est à la fois ultra organique dans la façon de fonctionner, parce que c'est une fée, qui t'aide à naviguer, enfin c'est ouf quoi. Les mecs ont réussi à intégrer une mécanique d'aide aux joueurs comme étant un mécanisme de jeu parfaitement intégré, parfaitement cohérent et logique, mais qui a une utilité première, c'est je vais aller éclairer tel truc pour que le mec puisse le cibler ou appuyer sur A pour le lire. C'est tout.
Et comprendre aussi comment tu peux interagir avec, puisque
exactement.
À la base, Navi, elle est bleue très clair, voire blanc, mais quand c'est un ennemi, elle devient jaune. Quand c'est un truc où tu peux interagir, je crois que c'est vert, et quand c'est vert, tu peux lui parler.
Un bleu, c'est pour vert, c'est pour lire les panneaux, je crois.
Ouais.
Et voilà. Et du coup, enfin, je sais pas, c'est une idée de gameplay qui est conne comme la mort.
Mais d'ailleurs, c'était elle qui représentait la visée entre guillemets dans la disage du jeu. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup regretté dans les Zelda d'après, c'est qu'ils ont retiré cet aspect avec juste une flèche banale. Mais moi, je trouvais que la fée, ça marchait super bien en fait.
Bah, je suis d'accord, mais finalement, ça rejoint un petit peu l'explication du matériel design d'Apple. Alors, Apple t'explique que c'est un truc con, hein, c'est un truc de designer, donc je suis désolé, c'est con, mais essayez de suivre. Le premier iPhone, en fait, l'enregistreur, le magnétophone pour pouvoir enregistrer ce que tu faisais sur iPhone, il ressemblait à un magnétophone. C'est-à-dire que tu avais un bouton enregistré au milieu de l'écran et tu appuyais sur l'enregistrer, ça enregistrait. Et en fait, les mecs ont dit, bah, en réalité, une fois que les gens ont compris qu'ils pouvaient enregistrer, ça servait plus à rien de faire une représentation d'un magnétophone, c'était débile. Donc on a commencé à faire des designs plats et tout ça, et à y faire de l'ergonomie un peu autrement. Et pour moi, ça, c'est exactement cette évolution-là. Oui, la vie, c'était nécessaire pour Ocarina of Time. Parce que ça économisait tout un tas de trucs. Ça permettait effectivement de représenter matériellement une flèche qui aidait le joueur. Une fois que les joueurs avaient compris, étaient habitués au fait qu'on allait leur mettre des flèches dans un monde en 3D, mais même, tu vois, dans Assassin's Creed, l'indicateur qui te dit le prochain objectif, il est là, hein, c'est un héritier de Navi. Hein. Tu peux faire ce que tu veux, c'est le cas.
Ah bah,
t'as plus besoin de faire quelque chose de symbolique une fois que les gens ont compris que ce truc-là serait de toute façon intégré à n'importe quel jeu en 3D.
Oui, non, en soi, c'est logique. Mais moi, c'est vrai que j'aimais bien le côté. En plus, c'était un personnage, quoi. Donc,
c'est ça, c'est intégré dans le visage du jeu, comme tu disais tout à l'heure.
Elle est là pour te guider, et du coup, elle fait aussi cet office, notamment avec les ennemis en donnant des indices, parce que mine de rien, les grosses Tulkula, là, où il faut les taper dans le dos, la première fois, tu n'y penses pas forcément. Et elle te le dit. Enfin, elle te donne un indice, je ne sais plus exactement, mais...
Elle te dit, oui, de face, tu n'arriveras pas à les toucher, quelque chose comme ça. Ce qui est effectivement un truc ouf. Il y a une autre mécanique de jouabilité un peu fofolle du jeu, c'est l'introduction des mécanismes. Parce que c'est super progressif, et tous les éléments sont introduits de manière hyper organique. Tu découvres... Alors, c'est un grand classique dans Zelda, hein, tu découvres un objet, il te sert pour résoudre le donjon, et à la fin, tu t'en sers pour battre le boss. Rien de révolutionnaire là-dedans, c'est la formule depuis quasiment le départ.
Du coup, on n'aura jamais eu le... Je trouve un décapsuleur et le boss, c'est une canette de bière.
Ce qui aurait été génial.
Mais... Ouais.
On l'a jamais eu.
Envoie un message à Onuma.
Mais je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. Mais voilà, contrairement à Twilight Princess, qui se servait très maladroitement d'un certain nombre d'objets dans ses donjons, et notamment la roue dentée qui sert qu'à un seul donjon, enfin bref.
C'est un peu le problème des Zelda en 3D sur la fin, c'est que globalement, c'est un objet, un donjon, et puis après, tu l'oublies.
Voilà, là, les mécanismes sont super progressifs. Le premier donjon que tu fais, t'apprends plein de trucs. Ah, je peux me servir du feu pour aller brûler des trucs. Je peux me servir de mon lance-pierre,
ouais.
Pour faire plein de trucs aussi. Et en fait, le lance-pierre, il sert aussi à battre le boss.
Je peux me servir de la gravité pour pouvoir avancer dans le donjon en brisant une toile.
Exactement. Et quand t'arrives au temple de la forêt, on t'apprend que bah oui, tu peux enflammer tes flèches. Et en fait, tous les mécanismes sont introduits de manière progressive, hyper organique. T'es jamais perdu dans le donjon Jabu-Jabu. Tout d'un coup, t'es obligé de réfléchir parce que tu trimbales Ruto, qui en fait est un objet puisque finalement elle fait pas grand chose. Mais ça veut dire que t'es obligé de réfléchir au fait que t'as deux interactions en même temps. tous ces mécanismes-là sont, enfin, c'est juste génial, quoi.
Et puis t'as quand même des, pour un des premiers jeux en 3D avec des niveaux aussi complexes, t'as des exemples de level design assez hallucinants. On reproche beaucoup au temple de l'eau d'être un temple dans lequel on se perd beaucoup et finalement où il y a 2-3 choses qui sont assez mal indiquées. Mais moi je trouve que au final avec le recul, je suis détesté ce temple la première fois, mais en fait en l'ayant refait à plusieurs fois, je me suis rendu compte à quel point il est vraiment très très malin.
Ouais, on n'était pas prêt. Ouais.
On n'était pas prêt, mais en fait c'est quand tu joues la première fois à ce temple en 3D, tu te perds très facilement. Il y a peu de repères mais aussi.
Parce qu'en fait c'est peut-être le seul temple vraiment en 3D, je veux dire.
Vraiment l'impératique
au sens,
surtout.
Voilà, au sens où t'as une vraie verticalité qui est utilisée, alors que c'est pas le cas des autres. Finalement, alors à quelques exceptions près. Si on exclut le temple de la forêt et le temple de l'eau, tous les autres temples, ça aurait pu être des temples 2D, ça aurait fonctionné de la même manière. À très peu de choses près. À très très peu d'exceptions près. Je veux dire, au pire des cas, il y avait des chemins qui étaient en hauteur. Je me rappelle notamment le temple du... Pas du feu, le temple des Dodongo, là.
La caverne.
La caverne, oui, c'est ça.
Bah, y a une énigme qui te demande de faire tomber une bombe...
Depuis un endroit depuis en hauteur. Donc c'est intéressant parce que c'est un vrai puzzle 3D qui n'aurait pas pu, enfin qui aurait été très compliqué à faire en 2D, mais qui aurait été faisable quand même.
Le temple de l'esprit aussi, il y a ces idées-là avec le bouclier miroir.
Oui, complètement. Complètement. Mais c'est. Voilà, t'as plein d'idées comme ça qui exploitent la 3D de manière microscopique, c'est-à-dire dans une salle, tu vas lever ton bouclier, qui est un truc qui aurait été infaisable en 3D. Mais techniquement, ces temples-là sont finalement relativement plats.
Oui.
Voilà. Alors que le temple de l'eau et le temple de la forêt, c'est des trucs où... Enfin, je veux dire, tu vois le couloir qui se retourne, tu sais, le couloir qui tourne à 90 degrés et que tu redresses, c'est un truc qui aurait été infaisable dans un jeu en 2D. Donc ah, c'est là où plus, tu vois le génie de ce temple-là, quoi.
C'est très troublant. Enfin, moi, je me souviens... Le temple de la forêt, je pense que c'est un de mes favoris, en plus, dans le jeu. Hein. Super ambiance, super musique. Et ce moment où tu remets le couloir dans le bon sens et que tu reviens dans la pièce, tu perds tes repères aussi, hein.
Complètement, et en plus c'est un des trucs qui est très fort aussi avec Ocarina of Time, donc ces donjons ne sont pas exceptionnels d'un point de vue design, mais par contre, ils s'intègrent tellement bien dans les décors, l'univers et tout ça, t'as l'impression, enfin le temple de la forêt ça pourrait être un endroit qui existe vraiment. C'est ouf parce que t'as des plantes qui ont grandi dedans, c'est vraiment une espèce de baraque abandonnée très bizarre, très effrayante, très...
Et des fantômes.
Il y a des fantômes, enfin c'est assez ouf comme quand il réfléchit. Et pareil, le temple du feu, le temple de la de l'esprit, c'est toujours super bien intégré dans l'endroit où c'est. T'y rentres toujours de manière très organique. Alors même si on te dit, t'arrives à un endroit, on te dit c'est le temple de la forêt. Finalement, le jeu est toujours assez prédécoupé. Mais
c'est moins le cas au début en fait au niveau des donjons où c'est plus des lieux. Tu vois, c'est l'arbre Mojo, c'est la caverne de Dongo, c'est le ventre de Jabu Jabu.
C'est vrai.
C'est vrai que plus on avance, plus ça commence à devenir un peu balisé et on se rend compte que les mecs sont peut-être sur la fin du projet, qui commencent à avoir peut-être un peu marre dans ce qu'ils font. Enfin, c'est peut-être moins frais que ce qu'on a vraiment au début ou ça arrive tout seul en fait. Alors il y a une suite logique, mais on la sent pas passer.
Alors en fait, la partie, je te rejoins là-dessus. Je trouve que la partie adulte est un petit peu plus mécanique. Que la partie enfant,
classique,
je peux me permettre.
Elle reste très Zelda, mais après, en termes d'idées, je trouve que la partie adulte, à part le temple de l'ombre qui est assez bof, est globalement peut-être, enfin, est un peu plus recherchée.
Alors, le temple de l'ombre est bof, mais il y a quand même un moment qui est particulièrement savoureux. Est-ce que tu te rappelles le donjon qui s'appelle le fond du puits ?
Oui, le boss.
Alors, il n'y a pas que le boss, il y a le donjon lui-même. C'est un truc tout bête. Voilà, tu es obligé de redevenir Link enfant pour aller faire le fond du puits. Donc non seulement tu te retrouves dans un des donjons les plus flippants du jeu, et clairement, ouais. Il est flippant.
En étant faible.
En étant très faible, en plus tu régresses en termes de... Enfin, tu vois, t'es beaucoup plus faible, puisque forcément t'as plus Link adulte, donc t'as plus...
L'épée est moins bien, tu te rends compte que le lance-pierre est quand même vachement bien, moins bien clair, que t'as plus le grappin...
Oui, voilà, il te manque plein de trucs, c'est flippant, on te fait retourner en avance, donc non seulement t'as moins de pouvoir, tu te sens plus faible, tu te sens plus impressionnable, parce que forcément t'es plus petit, enfin tu te sens plus fragile, donc ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça te fait pratiquement redevenir un enfant, c'est-à-dire tu te retrouves finalement à avoir une vraie trouille de ce donjon, alors que si tu le parcourais en tant que Link adulte, je pense qu'il aurait pratiquement aucun impact, comme le temple de l'ombre n'a pratiquement aucun impact.
Le temple de l'ombre, il y a quand même un passage qui est assez cool, c'est le bateau.
Ouais, c'est original, mais c'est pas fou. Mais, quoi.
D'ailleurs, le passage en Link enfant, ils vont le faire une seconde fois au Temple de l'Esprit. Et là, par contre, ils vont le faire affronter quand même un mec qui est bien vénère, c'est-à-dire le mini-boss du Temple de l'Esprit, qui est le H-Viande et qui réapparaît quand même 3-4 fois dans le jeu. Tu prends un coup, tu le sens passer. Hein. Même avec vainqueur, je pense que tu meurs en 3-4 coups.
Hein, ouais, non, tu meurs assez vite, mais bon, voilà, c'est... Bon, y aurait tellement de choses à dire sur ce jeu. Du coup, j'ai envie de faire un truc un tout petit peu différent, parce que sinon on va y passer 3 heures. Et D'accord. Donc, j'ai envie qu'on parle d'un truc particulier, comme ça on pourra tous prendre la parole sur le sujet, ce sera un petit peu plus sympa. À quelle occasion, comment vous l'avez expérimenté le jeu pour la première fois ? Qu'est-ce que c'était, à quelle époque déjà ? Parce que je pense que Drosgard était peut-être un peu petit.
Ouais, un peu petit, mais contrairement à ce que vous avez vécu à l'époque, j'avais déjà une certaine expérience des jeux vidéo, et surtout de Zelda. Si vous voulez, j'ai plutôt
pas le premier
commencé...
Que t'es fait,
non, en Zelda 3D, j'ai déjà eu l'occasion de faire Twilight Princess avant. Du coup, ça n'avait pas forcément le même sens à mes yeux. Et en fait, bah du coup, je vais commencer à parler, ça va être plus simple. Hein.
Voilà, vas-y, t'es
parti.
En fait, j'avais acheté une carte prépayée pour acheter sur le WiiWare, ou sur l'eShop Wii, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, pour pouvoir justement acheter Ocarina of Time sur ma Wii, en ligne. C'est le seul jeu que j'ai jamais acheté comme ça. J'en étais très content, sauf que 3 ans après est sorti la version 3DS, et du coup j'étais un peu deg parce que j'ai jamais fini sur Wii. Et au final, c'est pas le jeu que j'ai vraiment adoré, parce que j'étais pas dans cette démarche à l'époque où je pouvais comprendre les idées de game design et tout. J'étais beaucoup plus dans l'aspect graphisme, enfin... Le problème, c'est qu'à côté, j'avais des potes qui me tauntaient avec leur PS3, ce genre de choses. C'était vraiment la génération où ils commençaient à jouer tous à Call of Duty. Moi, j'étais à côté sur la Wii, c'était sympa, mais j'avais l'impression de pas être dans le même délire que mes copains qui jouaient à autre chose. Et du coup, c'est vrai qu'Ocarina of Time, bah, je l'ai un peu laissé de côté, et je l'ai vraiment, vraiment apprécié que sur 3DS. Et là, ça a été une autre expérience. Et en fait, le fait de pouvoir y jouer un peu quand je voulais, comme je voulais, sans avoir besoin de squatter la télé de mes parents, déjà c'était totalement autre chose, et là je l'ai bouffé, mais en une semaine j'ai retourné déjà.
Et est-ce qu'il y a un moment dans le jeu, est-ce que tu as un souvenir lié au jeu, un moment qui pour toi était marquant dans le jeu, ou qui était marquant à côté du jeu?
Bah, si on prend par exemple le passage de Link enfant à Link adulte, je connaissais déjà. Je traînais déjà pas mal sur internet, sur YouTube, donc j'avais pas tout cet aspect surprise, et il y avait pas mal de parties du jeu que je connaissais déjà en partie, malheureusement. Il y a des autres du jeu que j'ai apprécié, comme tout ce qui était Valley Gerudo, rien que la musique déjà j'appréciais beaucoup. Après il y a pas forcément d'énormes claques, et c'est ce qui m'a un peu déçu justement. C'est un précurseur, mais quand on le regarde maintenant avec une certaine expérience du jeu vidéo, même si on comprend qu'il a amené beaucoup de choses, et ben... il fait un peu fade, et je le retiendrai jamais comme un de mes Zelda favoris, loin de là, à cause de ça. C'est triste, hein, parce que je sais que c'est un des préférés de beaucoup, beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est pas du tout le cas.
D'accord, mais en fait, je comprends la logique. Si t'avais déjà joué à d'autres jeux qui avaient déjà intégré toutes ces mécaniques-là, effectivement, c'est un peu comme un grand classique du cinéma. Ça a beau être un grand classique du cinéma, tu pourras le trouver chiant aujourd'hui, même si c'est exceptionnel, parce qu'en réalité c'est le premier film de l'histoire du cinéma où on a raconté une histoire de telle manière.
Oui, voilà,
j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais
Citizen Kane, il est très mal.
Pardon ?
Citizen Kane, pour moi, il a très mal. Il est chiant à regarder aujourd'hui.
Il est chiant à regarder aujourd'hui, alors que pourtant c'est un film qui a énormément marqué son époque parce que c'est le premier où t'avais une utilisation des flashbacks. C'est un truc de fou quand tu te dis putain, les flashbacks, c'est un truc tellement évident, mais ça a été totalement ingéré, digéré par tout un tas de gens, qui fait qu'aujourd'hui un flashback, tu le comprends parfaitement, alors qu'à l'époque les gens, ça leur a troué le cul, quoi. Je suis désolé de l'expression, mais on en est là.
Même sans ça, enfin le fait que t'aies joué à, je pense, à Twilight Princess avant, puis même si moi je le refuse un peu de le considérer comme ça, reste quand même une version très moderne, enfin très 2006 de Ocarina of Time, parce qu'il s'inspire énormément quand même du jeu 64. Bah tu vois quand même une certaine une progression de la série en fait sur tout son enrobage, sur la finition de ses mécaniques, et ce qui fait que, enfin, je pense qu'Ocarina of Time fait un peu plus une version brute de décoffrage que Twilight Princess, qui est légèrement plus raffinée sur pas mal d'aspects, en fait.
Bah tiens, Antix, tant que t'y es, toi aussi. Première fois que tu as expérimenté le jeu, quelle impression ça t'a donné le premier coup? Et est-ce que tu as un souvenir, un moment marquant?
Non, moi, je vais faire un petit peu de contexte, parce que pour le coup, j'ai joué sur Zelda Ocarina of Time, ça va être le deuxième jeu auquel j'ai joué sur Nintendo 64. Avant ça, j'avais joué que à Zelda Link's Awakening sur Game Boy, qui est un jeu que j'adore de tout mon cœur. Donc Ocarina of Time, quand j'y jouais pour la première fois, donc c'était après Mario 64, c'était donc à peu près la deuxième claque que je me suis pris en 3D, et surtout c'était la première fois que je jouais à un Zelda qui n'était pas vu du dessus. Et je dois dire que c'était assez impressionnant à l'époque, alors je l'avais emprunté à un ami qui l'avait. Je ne l'avais pas terminé, je m'étais bloqué par le temple de l'eau, hein. Je déteste ce temple à l'époque.
Et bah oui, quand on a, t'avais quel âge, 8, 9 ans?
J'avais 10 ans à l'époque.
10 ans déjà?
Ouais.
90, ah, tu l'as emprunté en 2000?
Ouais, c'est ça, en fait, j'ai la console fin 99, donc...
Ah, effectivement.
J'ai pas eu le jeu à sa sortie. Hein. Donc j'ai joué à Ocarina of Time, que j'ai repris par la suite quand je me le suis pris pour moi avec Majora's Mask, et que j'ai terminé après avoir fini Majora's Mask. Mais c'est un jeu que j'ai beaucoup refait, donc que j'aime beaucoup, beaucoup. Et après, si je devais... Alors, j'ai pas vraiment de moment marquant en tête, en tout cas vraiment un plus que les autres, mais je pense qu'il y a deux moments essentiels dans le jeu pour moi, c'est quand tu arrives sur la plaine d'Hyrule pour la première fois en étant gamin, qu'on te dit « Hey, faut que tu ailles au château, c'est par là, que tu te perds, que la nuit tombe, et qu'il y a les squelettes qui sortent du sol, et quand t'as 10 ans que tu t'attends pas à ça, c'est assez stressant. » Et que toutes les fois d'après, je spammais roulade pour arriver à voir la tombée de la nuit au château, hein, parce que j'avais bien compris comment fallait faire. Et ça, c'était le premier. C'est le premier moment marquant,
C'est un vrai moment marquant. La première fois que tu entres sur la plaine d'Hyrule, c'est un moment marquant pour moi aussi. Hein. C'est-à-dire que quand t'as fini le premier donjon, t'es déjà super fier de toi. Hein. Moi, j'étais un petit peu plus grand que toi parce que je...
Le boss était géant à l'époque. Hein.
Le boss à l'époque était flippant. Je suis mort une fois. C'est la première fois que j'avais un game over du jeu. C'était... Mais j'ai ce même moment marquant où j'ai battu le boss et je me suis dit on fait quoi maintenant, tu vois, c'était vraiment
bon, c'est quoi la suite,
on y va, c'est cool. Et tu vas sur le petit pont, il y a Saria qui t'arrête, elle te file l'ocarina, et c'est un petit moment marquant, bon, tu es content, c'est un peu l'émotion et tout, et tu débarques et il y a le hibou qui te dit oh dis donc, ça va vraiment être chaud pour ton cul, gars. Et après tu débarques et t'as la plaine gigantesque et tu sais pas où aller. Et c'est juste tout ça, moi, qui m'a marqué. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me suis dit, putain, c'est l'open world. C'est la folie de l'open world. Je sais pas où aller, c'est gigantesque. Jamais je vais avoir le temps d'explorer tout ça. Il va me falloir des heures juste pour faire franchir ça. Alors qu'en fait, c'est complètement une illusion d'optique. Mais voilà. J'ai eu la même sensation.
Mais sur le coup, quand t'es gamin à l'époque, c'est super impressionnant.
C'est ça.
En plus, à ce moment-là, tu peux quand même accéder au village Cocorico, Rancholon, avant même d'arriver au château. Donc en fait, tu peux vraiment te paumer sur ce moment-là. Et le second moment. Qui n'est pas un moment de découverte, enfin qui est un moment de découverte, mais pas d'un environnement du jeu, mais d'une partie du gameplay, c'est quand j'ai compris la visée Z.
Ah oui.
Et tu veux
tu l'as compris au temple de l'eau.
Non, je l'ai compris. Alors je l'ai compris avant quand même, parce que je crois que c'était pas possible autrement. Dans le ventre de Jabu, tu as un interrupteur que tu dois activer avec le boomerang.
Oh.
Et en fait, cet interrupteur, il est derrière une espèce de toile que tu ne peux pas... Donc, tu peux pas y aller de front, tu dois passer par le côté avec le boomerang. Et en fait, c'est que à ce moment-là que j'ai réussi à comprendre à quoi servait la visée Z. J'avais fait tout le jeu sans juste avant.
Oh la vache.
Putain, la vache, c'est chaud.
Ouais. Je confirme, c'était chaud. Il y avait des moments où c'était vraiment... Je balançais les trucs, notamment les bombes. C'était très, très dur de bien viser.
Oh ah bah ouais, putain, c'est l'enfer.
Et qu'en fait, j'ai compris ça... Quand j'ai dû refaire le jeu après avoir rendu la cartouche à mon pote et avoir récupéré la mienne, ah bah Goma, c'est devenu super simple. King Nonongo, qui était déjà pas très dur, je lui ai encore roulé dessus.
Et tu m'étonnes. En fait, t'as joué à Castlevania 64. À Castlevania 64. Castlevania 64, il y aurait une visée Z, le jeu était bon. C'est juste ça. Hein. C'est pour vous dire à quel point ce truc est exceptionnel.
Mais voilà, mais enfin, même sans ça, j'ai quand même réussi à aller relativement loin dans le jeu. Bon, après, quand j'ai compris à quoi ça servait, j'ai fait mais oui, c'est génial en fait.
C'est ça. C'est une espèce d'épiphanie, le moment où tu te dis « Putain, mais c'est super, en fait, je peux pas perdre l'ennemi de vue. » C'est juste génial. Bon, alors, Mecton, à ton tour, puisque tu fais le malin, là, depuis tout à l'heure.
Ouais, je me sens sale.
Tu y as jamais joué ?
Mon premier contact avec Ocarina of Time était sur émulateur.
Oh !
Mais attends, ce n'est pas normal.
Ouais.
Aurais-tu eu une PlayStation? Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure.
C'est ça, ouais. Bon, après, finalement, je l'ai acheté sur WiiWare également, en console virtuelle N64.
Ah bah, ça me rassure, je suis pas tout seul.
Ouais, et j'ai fait le remake 3DS aussi. Et ouais, non, mais du coup, ouais, mon premier run entièrement sur émulateur au clavier.
Pas mal aussi.
Ok, joli coup.
Ouais, à la fac, putain. Sacré souvenir. Je l'avais lancé comme ça pour voir, parce que pareil, à force d'en entendre parler, tout, je viens de voir quand même à quel point c'est marquant. J'ai pas lâché le truc, hein, je ne jouais plus que à ça jusqu'à l'avoir terminé. En moment marquant, j'ai eu. Ah, vous allez rigoler, mais c'était l'espèce de mini énigme à la con pour récupérer Epona.
Ah, oui, je vois ce que tu veux dire.
Le jeu me dit, vas-y, fais une course de cheval. Ok, je fais une course de cheval. Voilà. À aucun moment, j'ai pensé à sauter la barrière, à remonter dans le temps, machin.
Ah, pour... putain, oui.
Pour la récupérer, oui.
Ouais, pour la récupérer après une fois adulte. Enfin, voilà. Et une fois que j'ai eu ce foutu cheval, la découverte de la vallée Gerudo avec sa musique exceptionnelle.
Ah oui, incroyable, cette musique-là.
Donc, mais ouais, c'est surtout une fois que t'as le cheval, le jeu s'ouvre. Enfin, ça change ouais, complètement oui. L'exploration et l'échelle du truc, quoi.
Bah, tu n'as plus ouais, cette crainte de te dire putain, vérifier s'il y a un truc là-bas, mais c'est loin quand même.
Non, tu t'en bats les couilles, tu prends ton cheval et tu vas.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, tout le délire autour de Epona, c'est un sacré souvenir. Je sais pas trop pourquoi j'ai en tête le Fossoyeur.
Ah, il est assez marquant,
il est marquant, lui, hein. Il est marquant. Ouais. Ça fait partie. Bah, tous les NPC dans Ocarina of Time ont une petite.
Le Fossoyeur, le mec dans le moulin.
Ah, lui, mais lui, je peux pas l'oublier. Lui,
le mec dans le moulin.
Avec le Storm.
Et un truc que j'ai toujours vu comme un clin d'œil à A Link to the Past, la petite mécanique pour le combat contre Ganon à la fin.
Ah, le tennis?
Le ping-pong, ouais. Ping-pong avec les boules de feu.
Ah oui, non, mais ça c'est volontaire. Hein.
Et.
Je pense aussi.
Ouais, ouais. Ça, j'ai aussi en souvenir l'espèce de zone dans le premier. Dans le premier, la première ville où tu as des vases que tu peux farmer comme un sac.
Ah oui, ça c'était bien ça.
Tu peux. Ouais, le fabricant de poterie le plus rapide du monde.
C'est ça, tu sors, tu rentres, tu sors, les pots sont là.
Et puis en plus, elles sont bien, bien remplies, hein, ces petites jarres, parce que tu pouvais te faire 50 rubis à chaque fois que tu y allais, quoi.
Ah oui, puis quand tu y retournes, quand le monde a été corrompu, l'ambiance était pas la même. Ça m'avait marqué aussi, ça.
Ah ouais, mais ça fait un coup de blues quand t'es gamin.
J'avais hésité à le mentionner, ça, dans les trucs, mais c'est vrai que quand tu découvres la place du marché la première fois quand t'es adulte.
Tout le monde. Putain, mais c'est. C'est passé un truc, quoi.
Tu passes de l'endroit le plus joyeux du jeu à vraiment celui le plus flippant, quoi.
Ouais.
C'est vraiment une sale ambiance.
C'est ça.
Ah putain, il y a Yoshio qui nous dit jouer sans viser Z, c'est un petit peu comme Mortal qui joue à Quake 3 au trackpad. Je suis assez d'accord. C'est d'accord. Mais en même temps, jouer à Quake 3 au trackpad, je l'ai fait, c'est possible.
Je crois que c'était pour plutôt pour Mecton qui joue au clavier. Hein.
Mecton qui joue au clavier, c'est hardcore aussi. Hein.
Ça s'est fait.
Tu l'as fait, donc c'est
possible. Ouais, mais je l'ai fait.
Après, Ocarina of Time, c'est pas un jeu non plus qui te demande des réflexes de ouf malade tout le temps.
Non, ah oui, alors pareil, le saut automatique, ça c'était une découverte pour moi, ça.
Oh, bah, mais oui.
Mais tu vois, juste ça, je sais que ça me semble plus faisable au clavier que Quake 3 ou Trackpad, tu vois.
Franchement, Quake 3 ou Trackpad, ça passe super bien. Hein.
Ouais, non, mais on n'en doute pas. Hein.
Enfin, Quake 3, de manière générale, ça passe super bien. Ce qu'il faut que j'essaye, c'est Quake 3 avec le... Alors, j'ai pas encore essayé, mais j'ai un émulateur de souris sur mon clavier, donc tu peux faire bouger la souris en fait avec des touches de clavier. J'ai pas encore joué avec Quake 3 avec, mais il faudrait que j'essaye.
On attend le run sur le Twitch du dojo.
Sur SDA, ouais, attends, tu vas l'avoir, fais gaffe. Attends, déjà, je joue au trackball à Quake 3, je m'en sors très bien, donc pas de problème, tu vois. Bah, je vais finir, du coup, puisque je suis le seul à pas avoir dit, donc... Alors, ça va vous choquer.
Choquer hein.
Ça va vous choquer. Mais moi, Noël 1998, Ocarina of Time, c'était mon cadeau de Noël.
Mm-hmm.
Hein? J'ai fait... Bah oui.
J'arrive pas à voir en quoi c'est choquant, en fait.
Bah, je suis le seul à y avoir joué Day One, quoi.
Ah, putain.
Bah non, tu as joué à Noël et pas le 11 décembre 1998.
J'ai pas joué le 11 décembre, mais j'ai joué à Noël, donc moi je l'ai eu...
Tu as joué Day 14.
Day 14.
Alors, te la fais pas, le vieux, ok.
Ah, d'accord. Ok, très bien. Mais moi, j'y ai joué dès sa sortie, en fait.
Ils s'étaient tous spoilés sur Minitel.
Non, même pas. Même si j'avais un Minitel. Donc moi, je l'ai eu le... Enfin, l'année de sa sortie, le mois de sa sortie. Alors effectivement, j'ai pas eu Day One parce que c'était mon cadeau de Noël, bêtement. Mais il y a une saveur particulière à ça, surtout aujourd'hui, parce que je me rends compte que quand je retournais au... Quand j'étais au collège à l'époque, quand je retournais au collège juste après Noël, en fait, j'étais pas le seul à l'avoir. Et en fait, tous les gens qui l'avaient, ils avaient, quand tu disais « Ah, tu l'as au Ocarina of Time », ils avaient des paillettes dans les yeux, quoi. Mais vraiment des paillettes des années 90, hein, celles qui étaient un peu moches, découpées à la merde et tout, mais...
Les vraies.
Elles étaient en SD sur YouTube catholique. Hein.
C'est ça, et tu sais, ça ressemblait un petit peu au générique de Sauvé par le Gong, en fait, les paillettes des années 90, tu vois, c'était un peu compliqué, mais... Mais ça, c'était assez ouf. Et j'ai deux souvenirs très 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 marquants sur Ocarina of Time. Le premier, c'est que je l'ai ouvert que le matin de Noël, parce que chez moi, en fait, Noël, ben, on faisait un petit dîner, on allait se coucher, on ouvrait les cadeaux que le lendemain matin. Et donc je l'ai ouvert, j'ai lu le mode d'emploi genre ultra vite, c'est-à-dire j'ai juste regardé les touches pour savoir ce qu'il fallait faire, tu vois. Je l'ai mis dans la console, je l'ai allumé, j'ai joué et tout ça. Et il y a mon oncle qui a débarqué et qui a fait genre, c'est quoi ce truc-là, et qui a retiré la cartouche alors que j'étais en train d'y jouer.
Oh non.
Et l'image s'est figée et tout. Et il m'a regardé en mode, putain, j'ai fait une grosse connerie. Il l'a remise et il s'est cassé de la pièce. Donc je pense que j'ai dû rejeter un regard noir comme j'en ai rarement jeté. Parce qu'il a rien dit, il a remis la cartouche, il s'est cassé en mode, ok. Ok, c'est cool, mec, tu vois. Voilà, donc c'est un très très bon souvenir en fait, parce que, enfin aujourd'hui j'en rigole, mais voilà, je revois mon oncle prendre la cartouche de la console et faire c'est quoi ce truc là, tu vois. Bref.
Attends, juste du coup, le gamin qui gueule Nintendo 64, c'est toi quoi.
Ça aurait pu être moi.
64
mais j'étais comme un ouf quoi, j'avais super envie d'avoir le jeu.
Ah, les moyens.
Et enfin, j'étais super content d'avoir le jeu, tu te rends pas compte quoi, déballer Zelda, et je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai eue de l'avoir effectivement pour Noël 98, et donc d'avoir pu vivre ça en exclusivité, mais je veux dire d'avoir quelque
dans
chose...
Dans le moment, quoi.
C'est voilà, avant l'édition Game of the Year et tous les DLC.
C'est ça, ouais. Finalement, j'étais un hipster, hein. J'avais Zelda before it was cool. Et donc ça, c'est un très bon souvenir. Et mon deuxième très grand souvenir de Ocarina of Time, c'est le moment où tu deviens adulte. Alors le passage à l'adulte, hein, bon, t'as la voix qui commence à dérailler, t'as des boutons d'acné, il se passe des trucs bizarres sur ton...
Dans Link, il n'y a pas le droit, lui, il saute tout ça.
Il a l'épée qui pousse.
Il tient directement beau gosse. Oh,
joli. Non, en fait, le moment où tu te rends compte qu'en fait... l'histoire finalement c'est un peu une histoire d'enfance perdue ou d'innocence perdue, et c'est un peu vrai puisque à la fin tu redeviens un enfant, et la dernière image de fin où il y a Link et Zelda qui se retrouvent face à face comme au début du jeu, je la trouve super émouvante parce que tu te rends compte de tout ce que t'as parcouru pour revenir finalement à ce point de départ là, c'est à dire t'es juste un gamin, tu vas aller revivre ton enfance dont on t'a privé parce qu'il fallait faire quelque chose contre Ganon, il fallait essayer de se défendre. Et ce jeu raconte un petit peu ça, l'histoire de l'innocence perdue. Et ce que je trouve exceptionnel, c'est finalement ces deux gamins, Link et Zelda. Je sais pas quel âge ils ont dans le jeu, moi j'ai toujours imaginé qu'il avait 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est
je crois qu'il est à peu près aussi vieux que Sacha, dans Pokémon.
C'est-à-dire 14 ans ?
Oh, 10.
Oui, voilà, donc il a 10 ans, le gamin. Et le gamin, les deux gamins qui espèrent vraiment contrer Ganondorf, dans son plan machiavélique. Et je trouve ça mignon, parce que finalement, ça ressemble à une aventure que tu ferais quand t'es gamin, où tu te dis, haha, le méchant voisin de l'autre côté de la rue, on va se venger de lui, on va faire un truc, ça ressemble à ça, quoi. T'as aucun espoir de faire quoi que ce soit. Et finalement, ces deux gamins-là se font totalement manipuler, et c'est eux qui libèrent Ganon, et donc c'est eux qui font une énorme connerie, et en fait, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'âge adulte, je me rappelle qu'il y avait Corrigan, ancien du forum que personne ne connaît à part moi aujourd'hui, je pense, qui était avec moi, et j'étais en train de jouer au Ocarina of Time, et on allait se faire une partie de GoldenEye. Je dis, attends, juste, je finis ça, regarde, je vais amener l'épée de légende, tout ça, je l'ai trouvé et tout, c'est trop ouf. Et je me rends compte à ce moment-là, je sors l'épée de légende, donc, et je me rends compte que je fais une énorme connerie. Et je me dis, putain, faut revenir en arrière, vite, faut la remettre, quoi. Tu vois, c'est le réflexe de gamin, t'as fait une connerie, tu remets l'épée. Et là, je sors du temple du temps en tant que Link adulte, et je vois le monde dévasté, et j'avais juste envie de pleurer. Et vraiment. Ce que je disais, c'est effrayant comme endroit, mais c'est exactement ça. J'avais juste envie de chialer, je me dis, putain, j'ai fait une grosse connerie, je vais aller remettre l'épée, je veux revenir comme c'était avant, c'était bien comme jeu, je veux pas faire ça, ça a l'air moche, ça a l'air de faire peur, j'ai pas envie. Voilà, c'est juste ça, mon souvenir, c'est le fait de dire putain, j'ai fait une énorme connerie, de me sentir super coupable et d'arriver dans ce monde moche que j'avais juste pas envie d'explorer parce que c'était moche et que ça faisait peur.
Ah bah, c'est con. Faut quand même se dire que quand tu débarques, la place du marché est complètement dévastée, les habitants sont remplacés par des zombies, il n'y a plus de musique. Et même
t'as juste les corbeaux qui font
un petit bruit, ouais.
le bruit du vent et tout. Et le truc qui est brûlé de partout, qui est moche et tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Moi, c'est vraiment ça, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi j'ai fait ça? Et je me suis dit, faut que je reset le jeu, c'était pas ça qu'il fallait faire, tu vois. J'avais l'impression d'avoir fait une connerie.
Ouais, et puis en fait,
qu'il fallait pas faire, quoi.
Tu vas voir au château, il a été détruit, il a été remplacé par un truc tout moche.
C'est
une espèce de HLM en carton. Surtout quand il va s'effondrer d'ailleurs, le HLM. Un peu moche ça. Le domaine Zora il est gelé, la montagne elle est devenue. Elle a une espèce de.
Elle crache, dessus, tu elle vois. Crache du,
c'est un volcan.
Du feu en permanence, oui, voilà. Elle est... C'est plus un volcan. C'est plus un volcan paisible qui était en soleil, c'est un volcan éveillé. Enfin.
Le lac Ilia il est vide. Enfin.
Yoshihiro dit on dirait un jeu PS1.
mais en fait, le monde de Link adulte il est vraiment dépressif quoi.
Et on s'en rend pas trop compte parce que c'était sur 64, donc il y avait quand même une certaine limite à ce qu'ils pouvaient montrer, donc il fallait quand même s'imaginer une partie de l'ambiance. Je serais assez curieux d'ailleurs de le voir refait avec des technologies modernes, comment ils géraient ce passage justement dans la ville, parce que un truc justement beaucoup plus glauque pour vraiment marquer le coup ou ce genre de choses, tu vois.
Bah, je sais pas comment ils le géraient, mais c'est vrai que. Voilà, le passage à l'âge adulte, je trouve qu'il est vraiment marquant pour ça. Parce que finalement, tu t'es fait manipuler, toi, en tant que Link enfant, se fait manipuler finalement par Ganon et par cette idée un peu conne qu'ont deux gamins de se dire ah, mais on doit pouvoir faire quelque chose si on se défend bien, après tout, on est des grands. Et en fait, non, ils sont totalement possédés par Ganon. Donc, cette impression d'avoir fait une énorme connerie. Et puis derrière, effectivement, la glauquitude extrême du monde dans lequel t'atterris, dans lequel tu dis, mais putain, c'est ça que c'est devenu, mais j'ai fait une énorme connerie. J'avais même pas envie de réparer la connerie, j'avais juste envie de reset le jeu en me disant, mais c'est pas possible, c'est une fin alternative, ou c'est pas ça, ça peut pas être ça, c'était tellement bien jusqu'à présent, c'était tellement joyeux, c'était coloré, et finalement, c'était très insouciant, tu réglais des problèmes qui étaient pas trop graves. Alors l'arbre Mojo meurt, ok, mais c'était pas... fou quoi. Finalement, tu débloques tu permets au Jabu Jabu qui avait la constip de rechier correctement. Non, mais c'est presque ça.
Ouais, c'est l'ouvert solitaire que t'as dégagé. Hein.
La montagne d'Odongo, finalement, tu t'aides les Gorons. Donc, c'est sympa, tu vois, t'aides les peuplades, tout ça, et t'as l'impression d'accomplir, d'aller faire une aventure. C'est cool.
Bah, tu deviens le héros que tu es censé devenir.
Voilà. Et alors que quand t'arrives dans l'âge adulte, en fait, tu fais que réparer la connerie que t'as faite il y a 7 ans. Je crois que c'est 7 ans.
7 ans, ouais.
Ouais. Tu fais que réparer la connerie que t'as faite il y a 7 ans, et c'est tout, et l'impression que ça fait, c'est ça. Alors après, voilà, les donjons sont très bien, j'ai pas de soucis, les mécaniques de jeu sont cool, mais moi, le monde de Link adulte, je le trouvais pas... Enfin, le premier contact, il a été très dur, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit ça.
Ouais, le problème, c'est que c'est ça, hein.
Bah ouais. Mais du coup, c'est triste. C'est pour ça que j'aimais aussi beaucoup. J'ai beaucoup aimé Majora's Mask, que j'ai fait aussi le Noël de sa sortie.
Oh.
Parce que justement, t'étais que Link enfant. Et en fait, j'aime bien Link enfant. Ça me parlait beaucoup plus que le reste. Et Drosgar est de retour.
Tour.
Voilà. Donc, et on va s'arrêter.
Hey ouais.
Et ça tombe bien parce qu'on a la musique des échoppes dans Ocarina of Time qui passe en fond, donc c'est super, extraordinairement raccord. Et donc on va se laisser sur cette note-là. Alors je suis désolé pour si on n'a pas abordé votre moment préféré d'Ocarina of Time, chers auditeurs, que vous écoutiez en direct ou en podcast.
De toute façon, il est moins bon que le nôtre.
Bah, si vous voulez vous pouvoir en parler, fallait être présent, hein. Voilà, c'est tout. Hein.
Voilà, mais... pensez à ça. Essayez de vous remémorer votre moment préféré d'Ocarina of Time, ou le moment qui vous a marqué, ou un souvenir à côté du jeu. Vous allez voir, c'est forcément que des bons souvenirs. Enfin,
c'est un jeu qui est assez marquant quand tu l'as fait à l'époque de sa sortie. Alors après, maintenant, peut-être pas, mais...
Le remake se fait bien.
Je pense que le remake 3DS est super intéressant parce qu'ils ont modernisé pas mal de choses dedans.
Bah, ils ont notamment rendu le temple de l'eau beaucoup plus navigable. Enfin, ça devient vraiment un temple fluide, intéressant et pas juste... c'est fluidifié, c'est ça.
Mieux balisé aussi, puisqu'il y a de mémoire, ils ont mis des espèces de codes couleurs comme dans le temple de la grande baie de Majora's Mask.
Exactement, donc c'est vraiment une version plus. Alors à 2-3 détails près, Bon, je voulais pas trop parler de la version 3DS, mais c'est pas grave. Il y a un petit détail que moi j'ai toujours trouvé un peu choquant, la place du marché sur la version N64, on dirait vraiment une ville médiévale. Mm-hmm. Alors que sur la version 3DS, ça fait un peu plus... c'est un peu bizarre.
Ah, je sais pas, j'ai jamais vu, moi j'ai pas joué à celle-là.
Bah, moi ça m'avait choqué. Bah, en fait, t'as des bâtiments qui sont beaucoup plus fantaisistes, quoi.
Ah, d'accord. Ah, je vois. Oui, non, je vois très bien.
Voilà, tu vois, la version N64, t'avais vraiment l'impression que c'était des murs en merde séchée, quoi. En fait, ça faisait Moyen-Âge.
Bah, c'était du précalculé, non?
C'était tout du précalculé. Les fonds, hein. Comme dans tous les bâtiments, en fait, tous les intérieurs et tout ça, c'était des images précalculées.
Je viens de taper comparatif Ocarina of Time 3DS 64, et le premier lien que je trouve, c'est Gameblog. Donc j'ai cliqué.
Ah, va te niquer.
Alors, on m'apprend que, waouh, il y a des différences. Eh ben, je suis content de le savoir.
C'est complètement gueudin. Voilà.
Il y a un côté un peu plus maison de foire de parc d'attractions, je trouve.
Oui, c'est ça. En fait, c'est... Voilà, je trouve que le redesign n'est pas terrible, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, c'est probablement la meilleure manière aujourd'hui d'expérimenter le jeu, parce que c'est joli, c'est fluide, c'est beaucoup plus fluide que la version N64 qui tourne à une vingtaine d'images par seconde dans le meilleur des cas.
Et qui avait du brouillard.
Voilà, sans troll, sans rien, ça reste un jeu exceptionnel, mais c'est vrai que techniquement, il est très léger.
Il est sorti sous 64, une machine qui, on peut pas dire qu'elle est les jeux dessus est très bien vieillis dans l'ensemble.
Ouais. Ça dépend des jeux, mais en termes de framerate, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont bien vieilli, à part peut-être F0.
Mais c'était l'époque où le framerate et la résolution, on s'en battait les couilles.
Mais oui, complètement.
Parce qu'il y avait de la 3D.
C'était la folie.
Avec Battle Arena Toshiden.
Putain, va te baiser.
Ouais, on retombe sur nos pattes. Hein.
On retombe sur nos pattes. Bref, donc faites ça pendant les 2 semaines qui viennent en attendant de nous réécouter, ou même si vous nous écoutez en podcast, faites ça. Repensez à votre
Toshinden,
moment préféré.
Pas la tête.
Repensez à votre moment préféré dans Ocarina of Time et oubliez Battle Arena Toshinden d'ailleurs. Ah. Je vous propose que nous montions une association qui va racheter toutes les copies de Battle Arena Toshinden pour les brûler.
Les enterrer dans le désert, moi j'aurais pensé.
Je pense que ce serait intéressant. Dans la Creuse, mieux que le désert.
Bref. C'est notre désert mexicain, nous.
Tout à fait. Alors, pour les gens qui nous écoutent en podcast, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct. Donc, nintendojo.fr/dojobar pour la version audio.
Twitch.tv. La prochaine fois, ce sera le 5 décembre à 21h, soyez là.
Voilà. Twitch.tv/nintendojo.fr si vous voulez avoir la version vidéo, dans laquelle il n'y a pas grand chose de plus que la version audio, hein, vous pouvez quand même être honnête. À part le chat.
Mais il y a un chat.
Il y a un chat.
Il y a Galaxis qui fait des blagues sur le layout.
Il y a Galaxis qui fait des blagues sur le layout, ce que je ne peux pas me permettre de faire parce que j'ai un peu les mains occupées à autre chose.
Voilà.
Et donc, si vous voulez nous contacter, si vous voulez nous poser des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions, si vous avez des insultes, on prend tout. Vous pouvez nous contacter donc sur Twitter, #dojobar ou directement @nintendojofr, sur Mastodon, nintendojofr @m.nintendojo.fr ou directement par mail, @nintendojo.fr. Voilà, ça, vous pouvez nous contacter comme vous voulez. Et donc,
le courrier,
pour ceux qui nous écoutent,
le courrier postal pour le direct, vous oubliez, c'est
courrier
chiant.
Postal. Alors, vous pouvez nous envoyer un courrier.
Faites
deux semaines
en avance.
Mais faites-le, voilà, 2-3 jours en avance. D'autre part, oui, pour les gens qui nous écoutent en direct, vous pouvez nous écouter en podcast. Donc, www.nintendojo.fr/dojobar. Et vous pouvez aller regarder sur la page, il y a toutes les informations pour nous écouter en podcast. Sinon, vous pouvez chercher sur iTunes. Et j'ai pas fait Google Play, mais c'est bientôt, parce que le service Google Play Podcast a ouvert en France il y a très peu de temps. Donc, ce sera bientôt disponible.
Yes.
Voilà. Donc, nous, on se retrouve dans 2 semaines, quoi qu'il arrive. On vous fait des gros bisous. Jouez à Ocarina of Time, c'est très bien. Ne jouez pas à la PlayStation Classic Edition, c'est de la merde. Et brûlez Battle Arena Toshinden. Merci beaucoup. Voilà. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.
Bye. Salut.
Bisous. Salut.